Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
Excellent Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci Père parce que tu ne varies pas. Tu es toujours le même, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de fidélité à notre endroit. Que te plaise d'accepter Seigneur ici nos louanges dans ta action de grâce. Notre gratitude infinie et inexprimable pour ce que tu es dans nos vies, pour ce que tu as déjà fait dans nos vies et pour les glorieuses destinées que tu as encore pour nous, Seigneur. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour ce jour supplémentaire que nous avons, cette grâce additionnelle que nous avons de nous retrouver en communion avec toi, pour partager encore ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'il te plaise par ta parole de transformer encore nos vies, Seigneur. Qu'il te plaise par ta parole d'opérer encore une vie, Seigneur. Qu'il te plaise encore par ta parole ce soir de donner la vie, d'impacter quelqu'un, de faire redécoller quelqu'un, de réveiller quelqu'un, de remettre quelqu'un sur le chemin de sa glorieuse destinée, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta parole guérisse aujourd'hui un cœur, que ta parole transforme aujourd'hui une vie, que ta parole ouvre aujourd'hui des vues, des yeux, des oreilles. Père Tout-Puissant, réveille-nous spirituellement, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être en meilleure communion avec toi, de mieux te connaître pour pouvoir mieux t'obéir, parce que nous savons, Seigneur, que t'obéir vaut mieux que tous les sacrifices. Merci Seigneur parce que comme toutes les fois tu es là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu nous parles, tu nous impactes comme nous n'avons jamais la grâce de le faire en dehors de ce lieu. Oui Seigneur, merci pour ces moments de qualité, ces moments extraordinaires que tu vas nous donner encore. Nous savons que tu es là, nous savons que tu fais de grandes choses ce soir encore. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus nous avons prié. On va s'asseoir. Alors, est-ce que par hasard, il y a des attentes particulières par rapport à ce séminaire?
Ici, c'est que quand quelqu'un vient à un séminaire, ce qui n'est pas un match de football, ce qui n'est pas un cinéma, il ne vient pas seulement en spectateur passif. Il vient pour chercher des réponses à des questions qu'il a. Il vient pour apprendre à régler un problème. Notre vision, et je crois que c'est ça la parole de Dieu, il dit « Heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » C'est-à-dire que ce qui rend heureux, ce qui vous bénit, ce qui vous fait porter des fruits dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de venir à l'église tout le temps. Ce n'est même pas le fait de suivre tous les enseignements. Il y a des gens qui sont à tous les programmes de leur église et presque à tous les programmes qu'ils ont entendus sur Radio Maranatha. Mais il n'y a pas de différence dans leur vie. Ce qui vous rend heureux, ce n'est pas d'avoir donné votre vie à Jésus seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien seulement. Ce n'est pas le fait d'aller au programme. C'est vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que, à condition que vous les mettiez en pratique. Est-ce que vous les mettez en pratique? C'est ça l'enjeu. Quand on écoute un message, le Saint-Esprit nous interpelle, il nous parle, il attire notre attention, il nous montre, il fait le zoom dans notre cœur sur ce qui ne va pas. La parole de Dieu est un miroir dans lequel nous nous regardons en voyant la norme, en voyant l'idéal. Donc, quand on écoute la parole est comme un miroir qui nous révèle ce qui en nous n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ce qui en nous est contraire à la parole de Dieu, ce en quoi nous désobéissons à Dieu, ce en quoi nous nous sommes éloignés de Dieu. Le Saint-Esprit ne se donne pas la peine de nous convaincre de péché, parce que c'est ça qu'on appelle la conviction du péché, juste pour le plaisir de nous convaincre de péché. En nous convainquant de péché, le Saint-Esprit est en train de nous coacher, de nous soutenir, de nous aider dans notre effort pour plaire à Dieu. Si à tout instant vous devez vous rappeler de tout ce en quoi vous déplaisez à Dieu, vous allez devenir fou. Donc le Saint-Esprit ne vous demande pas ça. Il vous dit, essayez de me plaire, aimez-moi, marchez selon mes voies. Et de temps en temps, lors de ces enseignements, lors des cultes, chaque fois que vous tombez sur une parole, le Saint-Esprit vous dit, voilà la vérité. Où es-tu? Tu es dedans ou tu es loin? Si tu es dedans, rends grâce à Dieu, merci Seigneur. Que celui qui est debout, prie le Seigneur de rester debout. Mais si la parole te révèle que tu es tombé, la parole te révèle que tu es loin d'elle, ce n'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour te dire rapidement, mets-toi en règle. J'insiste là-dessus. Peut-être que je me répète trop sur ce sujet, mais je me répéterai aussi longtemps qu'il le faudra, parce que c'est là l'ADN du succès avec Dieu. Moi, ça m'énerve de voir le nombre de chrétiens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Vous ne voyez pas que les chrétiens sont plus malheureux que les païens au Bénin? Vous ne voyez pas, frère? Est-ce qu'il est normal qu'un chrétien soit plus malheureux qu'un païen? Ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas. C'est la norme. Soit c'est que Dieu est faux, parce que franchement, avec tout ce qu'il a dit, s'il faut que les gens le suivent pour se porter moins bien que les autres, c'est qu'il ment. Ou alors c'est que nous ne lui obéissons pas. Et la réalité, c'est que nous ne lui obéissons pas. Et comme nous ne lui obéissons pas, vous me direz pourquoi les autres ne lui obéissent pas et prospèrent. Quand quelqu'un vous aime, Dieu dit qu'il aime bien, châtie bien. Il sanctionne plus promptement chaque désobéissance. Ce qu'un païen va faire, Dieu ne va pas lui répondre, parce que comme il dit dans tous les cas, il est destiné à l'enfer, donc il n'y a pas de souci là. Vous allez le faire, Dieu va frapper immédiatement. Parce que vous, il vous a promis le paradis. Donc pour vous amener au paradis, il faut qu'il vous éduque rigoureusement pour que rapidement vous soyez digne d'aller au paradis. Là où un païen va forniquer, Dieu va laisser tomber, vous, il va vous frapper rapidement pour vous décourager. Là où un païen ne va pas vraiment l'adorer, ne va pas le connaître, ne va pas appliquer certaines de ses lois, et il va s'en sortir, Dieu fera que vous échouez, que vous soyez pauvre. Afin de voir, parce qu'il dit, au jour du malheur, médite tes voies. Quand Dieu frappe durement un chrétien, c'est parce qu'il veut qu'il médite ses voies et que rapidement il revienne sur les bonnes voies, afin qu'il puisse le bénir. C'est pour ça que vous avez des oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. Un cœur pour comprendre, vous ne comprenez pas. De peur de comprendre et d'obéir pour que je puisse vous bénir. L'enjeu de tout ça, c'est que Dieu veut vous bénir. Mais il ne peut pas vous bénir si vous ne lui obéissez pas. Donc, quand vous venez écouter un message, si vous venez écouter la parole de Dieu, ça ne doit pas être pour dire, bon, je viens, on veut avoir. Ce n'est pas, je vais être là. Je viens pour faire un pas de plus avec le Seigneur. Je viens pour relever un défi de plus. Je viens pour améliorer ma proximité avec le Seigneur. Je viens pour faire tomber un mur de Jéricho de plus dans ma vie. Et donc, par rapport au thème, chacun doit venir avec une fin. Je veux savoir si, comment je fais si, pourquoi ça. Vous devez avoir un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'attendez rien, Dieu ne vous répondra pas. Et si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans les juger. Quand vous venez à un programme chrétien, que vous avez une question au fond de vous, vous voulez savoir quelque chose, vous dites, Seigneur, utilise l'enseignant d'aujourd'hui, utilise l'orateur d'aujourd'hui pour me parler. Le Seigneur va souvent vous parler. Invoque-moi, je te répondrai. Quand vous lui posez une question, il vous répond. Mais si vous venez sans question, vous ne l'avez pas invoqué, vous n'attendez rien de lui, vous partez sans rien. Vous allez entendre des choses, mais c'est jamais comme si vous avez posé une question à Dieu et que vous découvrez la fidélité de Dieu en voyant que sans que le formateur, sans que l'orateur ne soit informé, Dieu l'utilise pour répondre à des questions que vous vous posez. Vous devez donc vous poser des questions sur Dieu et vous attendre par la foi à ce que Dieu vous réponde. Et Dieu vous répondra. C'est comme ça que vous allez grandir avec Dieu. Les chrétiens seraient des géants de la foi si on obligeait les chrétiens à appliquer ce qu'ils ont entendu. On n'oblige pas, on n'apprend pas aux chrétiens à appliquer ce qu'ils ont entendu. Les chrétiens entendent quelque chose le dimanche, c'est le rituel du dimanche, le prêtre a parlé, le pasteur a parlé, et puis toute la semaine, ils vivent comme s'ils n'avaient jamais été à l'église le dimanche. Et le pire, c'est que dimanche prochain, au lieu de dormir, ils se réveillent encore pour encore aller à l'église. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Si vous allez quelque part qui ne vous sert à rien, dormez dans vos maisons. Pourquoi on va à l'église si ça ne doit rien changer à la vie? Pour dire que moi-même, je vais à l'église? Dieu s'en fout d'où vous allez. Ce qui compte pour Dieu, c'est qu'est-ce que vous faites avec lui. Et c'est la loi de l'alliance. C'est la loi de l'alliance. Pour ceux qui étaient là au culte de dimanche, je disais ceci. Qui que vous veuillez avoir comme personne qui va vous bénir, je vais aller mieux. Dans la vie, Dieu établit sur chacun de nous des autorités. Et une autorité, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui établit toute autorité. Une autorité, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu la capacité de vous bénir et le devoir de vous bénir. Mais cette personne qui a reçu la capacité et le devoir de vous bénir ne peut vous bénir que si vous vous soumettez à eux et que vous leur obéissez. Je prends le cas de nos parents, qui sont les premières autorités que Dieu a établies sur nous. La Bible dit aux enfants, « Honore ton père et ta mère, obéis à ton père et ta mère. » Ça, c'est l'obéissance, c'est le devoir de soumission. Et en même temps, pour avoir des jours heureux sur terre, pour que tes parents aient la capacité, usant de l'autorité que Dieu leur a donnée sur toi, de t'assurer des jours heureux, il faut que toi, tu te soumettes à eux, que tu leur obéisses. Si tes parents ont tout, s'ils veulent tout te donner, mais comme on dit, il y a une différence entre dimanclon et vimanseclon. Le dimanclon, c'est quelqu'un qui est impoli, qui est raté parce qu'il n'a pas été éduqué. Le vimanseclon, c'est celui que tout le monde voit très bien, qu'on a tout fait pour l'éduquer, mais il a refusé de se soumettre. À partir du moment où quelqu'un refuse de se soumettre, celui qui a reçu l'autorité de le bénir ne peut plus rien faire pour lui, à part de constater que malgré tout ce qui était disponible pour qu'il réussisse, il est un échec. Ses frères, ses soeurs, dans les mêmes conditions que lui vont réussir, lui sera un échec. Je vais plus loin. Vous prenez un docteur. Le docteur a reçu de Dieu la capacité et l'autorité de l'État lui a donné aussi la capacité, le droit d'être celui qui vous bénit dans le domaine de la santé. Vous avez une maladie, le docteur a la capacité, a l'autorité de vous guérir. Parfait. Mais un docteur ne peut pas vous guérir si vous ne reconnaissez pas son autorité et que vous ne vous soumettez pas à son autorité. Si vous êtes malade, vous restez dans votre chambre à pleurer, vous ne vous soumettez pas à l'autorité en vous déplaçant pour aller au pied du docteur pour dire « Docteur, je suis malade ». Le docteur est là, il a tout ce qu'il faut pour vous guérir, il a même des médicaments gratuitement parfois, au-delà des ordonnances. Mais vous, vous mourrez dans votre chambre. Parce que vous n'avez pas reconnu qu'il a la capacité de vous guérir pour aller vers lui. Première chose. Deuxième chose, vous allez vers lui. Il vous dit de vous déshabiller, il va vous ausculter. Vous êtes une femme, vous dites « Comment je vais me déshabiller, tu vas voir mes fins ?» Si tu n'es pas capable de te mettre nu devant Dieu, si tu n'es pas capable de montrer la vérité à Dieu, si tu n'es pas capable d'admettre devant Dieu ta nudité en bon ou en mal, et que tu veux cacher ta nudité au docteur, comment le docteur peut te soigner? Si tu refuses de te soumettre, de montrer ta nudité au docteur, tu as refusé la guérison, ce n'est pas la peine d'aller chez le docteur. Si tu vas à l'église pour cacher le fond de ton cœur, pour garder tes péchés, pourquoi tu perds ton temps à aller à l'église? Ce n'est pas la peine. Maintenant, tu es parti chez le docteur, tu t'es soumis à lui, tu lui as montré ta nudité, il t'a fait une ordonnance. Si tu rentres chez toi, tu ne prends pas les médicaments qu'il a dû prendre. Il le prend 3 fois par jour, tu prends une fois seulement le matin. Il le prend pendant 2 semaines, tu prends pendant 2 jours. Même si le docteur est compétent, tu vas guérir. Tu vas guérir. Et c'est pour ça qu'on parle de l'alliance. Vous allez voir, ceux qui suivent un peu mes pages Facebook, depuis quelques temps, je publie beaucoup dessus pour essayer de toucher les gens. Et cette année, je publie beaucoup de Deutéronome 28. Parce que tout est là. C'est une alliance. Dieu dit depuis le commencement, si tu m'obéis, voilà. Si tu ne m'obéis pas, voilà. Si vous laissez tomber les signes de Dieu, tout le reste, c'est bavardage. Les gens font comme si parce que c'est Dieu, il est gentil, il va bénir tout le monde. Non! Dieu est gentil, il est amour, mais il est justice. Et en tant que personne juste, il doit faire ce que la loi dit. La loi dit qu'on bénit celui qui fait la volonté de Dieu et qu'on bénit celui qui ne la fait pas. À partir du moment où Dieu est juste, il n'y a pas de prière que vous puissiez faire pour que Dieu soit à cause de vous injuste. Si vous faites le contraire de la volonté de Dieu et que Dieu vous bénit, cela reviendra à dire que vous avez rendu Dieu injuste. Si quelqu'un vole et le policier l'appelle et lui donne une médaille, comment faire bénir là, le décor chevalier national de l'ordre du mérite, qu'est-ce que vous allez dire de l'autorité qui lui a donné la médaille? Qu'elle est corrompue, non? Est-ce que vous allez dire que l'autorité est gentille, l'autorité a pitié de Dieu? On dira l'autorité est corrompue. Ou bien, pourquoi vous voulez faire exactement le contraire de la loi et vous croyez que parce que vous suppliez, Dieu va vous bénir? Il me cite l'exemple de, oui, la veuve qui fatiguait le juge unique, il a fini par lui donner le bon droit. La veuve avait raison. Elle était dans le droit. Elle n'a pas violé la loi. Elle voulait juste qu'on reconnaisse qu'elle est juste et que c'est elle qui a raison. Elle a fatigué le juge unique. Le juge unique a reconnu qu'il avait raison. Mais vous, vous avez tort. Vous êtes comme un bandit. Vous croyez que vous allez fatiguer le juge unique et que parce que vous l'avez fatigué alors que vous êtes un voleur, il va finir par dire, donnez-lui un trésor. Importunez Dieu jusqu'à ce qu'il dise oui, c'est pour le juste. La veuve là, c'était une juste, on a dit non. Elle avait raison, non? Alors vous avez raison devant Dieu. Si vous ne comprenez pas ça là, vous n'avez rien compris à l'église. Allez dormir. Et quand vous voulez impacter les gens, c'est la première chose à leur dire. Il n'y a rien de plus inefficace dans le christianisme que de présenter le christianisme comme une religion. Le christianisme n'est pas une religion. C'est ça le vrai. Le christianisme n'est pas une religion. Tant que vous vivrez le christianisme comme une religion, vous perdez votre temps et vous aurez du mal à attirer des gens. Parce que c'est une religion, les gens en ont vu beaucoup. Une religion, c'est quoi? Dieu au commencement était avec Adam et Ève. Dieu était esprit, ils étaient esprit. Ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Dieu était avec eux, ils ne manquaient de rien, ils n'avaient aucun problème. Quand ils ont désobéi, Dieu les a chassés de sa présence et a veillé à ce qu'ils ne puissent pas y revenir. Ils ont donc perdu la communion avec Dieu. Autant ils étaient avec Dieu, connaissaient Dieu avant, autant subitement Dieu est devenu inconnu pour eux. Et avec la disparition de Dieu de leur côté, tous les problèmes sont nés. Parce que Satan n'est là que pour égorger, tuer, voler. Donc dès que Dieu enlève sa protection dessus vous, Satan vient vous appliquer la dose maximum et il s'amuse avec vous à longueur de journée. Ce n'est pas que quand vous déplaisez à Dieu, vous punit. Mais quand vous déplaisez à Dieu, il est obligé de se retirer. Quand il se retire, Satan s'occupe de vous. Si tu es un garde-corps qui n'aime pas qu'on fume, et toi tu passes tout ton temps à fumer, ton garde-corps va dire, ok, laisse-moi rester ici le temps que tu finisses de fumer. Pendant qu'il est loin de toi, un bandit peut venir te tuer. Si tu fumes alors que ton garde-corps déteste à fumer, c'est comme si tu chasses ton garde-corps, tu n'as plus de garde-corps. Être dans le péché, même si Dieu est miséricordieux, c'est dire à Dieu, reste là-bas le temps que moi je finisse mon péché, puisque Dieu n'aime pas le péché. Pendant que Dieu est là-bas, là, Satan s'occupe de toi. Et parce qu'il veut s'occuper de toi, comme on l'a vu avec les Juifs, avec Balak et Balaam, il t'envoie le péché. Sachant que quand tu commenceras à pécher, Dieu va dire, quand tu auras fini, appelle-moi. Mais pendant que Dieu est loin en disant, quand tu as fini, appelle-moi, Satan, lui qui t'envoie le péché, sait que c'est le moment de te frapper. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes foutu. Ce n'est pas dans quelle langue il faut dire pour que vous compreniez. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes foutu. Donc, le christianisme n'est pas une religion. Quand, donc, ils ont péché, ils ont perdu la communion avec Dieu, leurs descendants conscients commençaient à souffrir. Mais comme ils sont en réalité esprits, esprits déchus, et que la présence de Dieu, ils l'ont connue une fois, au fond du patrimoine génétique de l'homme, il y a quelque chose qui sait qu'il n'est rien tant que Dieu n'est pas là. Il y a au fond de nous quelque chose qui nous fait tous aspirer vers Dieu. Parce que nous venons de Dieu et nous avons vocation à retourner à Dieu. Un jour, j'étais à la piscine, j'étais en train de nager et je faisais, comme je fais parfois, l'expérience de la merveille de la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'eau, vous flottez plus facilement. Naturellement, vous avez, parce que tout corps à la surface de la Terre est attiré vers le centre de la Terre par la gravitation, la force de la gravité. Mais, quand vous êtes dans l'eau, par exemple, la force de la gravité est moindre. Vous pouvez surfer plus facilement. Et donc, j'étais là et je me rappelais qu'après tout, toutes les choses terrestres sont des métaphores des choses célestes. Et le Saint-Esprit me disait effectivement, de la même manière que tout corps qui est sur la terre est attiré vers la terre, de la même manière, tout esprit qui a été créé est attiré par une force de gravitation vers Dieu. Vous pouvez utiliser des avions, utiliser des fusées, utiliser des forces centripètes pour essayer de vous soustraire à la gravité. Mais le naturel, c'est de revenir à la terre. Si c'est un avion, dès que tu éteins le moteur, il tombe. Si c'est n'importe quoi que tu as, tu peux lui mettre des forces contraires à celles de la gravité pour les faire décoller. Mais dès que tu éteins, que tu reviens à la norme, ça revient à la terre. On peut faire le malin n'importe comment. Quand tu meurs là, qu'on t'incinère, qu'on t'enterre, que n'importe quoi, il n'y a rien à faire pour être tellement important que quand tu meurs, tu ne reviens pas à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es esprit venant de Dieu et tu retourneras dans les lieux célestes. En enfer ou au paradis, il n'y a rien à faire. Dans ta vie, tu peux faire le malin avec des idées préconçues, avec des théories, avec des philosophies, avec des niaiseries, des masturbations intellectuelles pour te convaincre que tu n'as pas besoin de Dieu et décoller. Ce n'est pas grave. Il arrivera le moment où tu seras fatigué, usé, brisé. Quand tu vas vouloir souffler, tu retomberas comme un caillou. La réalité, c'est que tu reviendras toujours à Dieu. En pleurant ou en riant. C'est pour ça qu'il est écrit. Tout genou fléchira devant Jésus. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Que ce soit parce que tu as compris que tu es venu volontairement, ou parce qu'il t'a brisé en plein vol que tu es tombé, tu reviendras à la terre. Si tu es en avion, tu as dit que la gravité, c'est la gravité. Tu n'auras pas du carburant tout le temps atterri. Il vaut mieux atterrir volontairement que de faire le malin sur le carburant fini que tu tombes. Beaucoup de gens font le malin en s'éloignant de Dieu jusqu'à ce que le carburant finisse et qu'il tombe. Mais quand tu tombes là, il n'y a plus rien à faire. Tu es tombé chez Dieu, mais ça, c'est l'enfer. Il vaut mieux atterrir et se humilier devant Dieu. Donc, la religion, c'est que les hommes, au lieu de rechercher Dieu selon qui Dieu est, c'est comme si Dieu dit, foutez le camp. Et au lieu de s'humilier devant Dieu pour qu'ils disent, bon, c'est pas grave, je vous ai pardonné, viens. Ils essaient de fabriquer des manières alternatives pour essayer de s'élever vers Dieu. C'est un peu l'histoire de la tour de Babel. Des gens qui sentent que eux maintenant peuvent construire quelque chose d'assez grand pour aller rejoindre Dieu. Que Dieu a envie de leur présence ou pas, eux, ils ont décidé de relever le défi, de remonter vers Dieu. La religion, c'est des échelles, c'est des ascenseurs que l'homme essaie de se construire pour essayer de relever le défi que bien que Dieu l'ait éloigné de lui, lui veut remonter à Dieu en inventant des théories, des dogmes qu'on sort. Ça ne marche pas. Ça ressemble à, c'est un peu comme la tour de Babel. Il monte, il monte, il monte, mais tôt ou tard, ça s'écroule. On ne peut pas découvrir Dieu en décidant, en partant de la terre, nous qui avons été rejetés par Dieu, de refranchir les échelles pour aller vers lui. Ce n'est pas possible. On ne peut revenir à Dieu que quand Dieu revient à nous. Quand Dieu se révèle à nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ce qui a commencé à se passer avec Abraham. Avec Abraham, un peu déjà avec Enoch et consort. Dieu a recommencé avec Noé. Dieu a recommencé après avoir été fâché contre l'homme. Parce que Dieu, je l'ai déjà dit ici, c'est comme un père. Tes enfants te font n'importe quoi. Tu peux être fâché n'importe comment. Tu peux décider n'importe quelle punition. Si c'est tes enfants, il y a quelque chose en toi qui fait que tu rêves du jour quand même tu vas être en paix avec eux autour de la table, en famille, en train de voir tes enfants heureux grandir. Le père a autant besoin d'être en joie avec ses enfants que les enfants ont besoin d'être en joie avec leur père. Et à la limite, je dirais même que chez le père, c'est plus fort que chez les enfants. Tout père est malheureux quand ses enfants ne sont pas avec lui. Donc, il peut faire le malin n'importe comment. Quelque chose en lui l'oblige toujours, autant que cela est humainement possible, ou là, autant que cela est divinement possible, à faire le pas d'aller vers ses enfants. Quand je dis à mon enfant, je ne veux plus te voir, il ne peut pas revenir et faire de forcer ma fenêtre pour rentrer dans ma chambre. Il faut attendre, quitte à me supplier du moins, que je dise, reviens. Et c'est ce que Dieu a fait avec Noé, avec les Enoch, avec Abraham. Regardez, c'est Dieu qui prend l'initiative. Non, ne dis pas que les Noé a appelé Dieu, il a répondu. Les Abraham ne connaissaient même pas Dieu. Ils étaient là, Dieu vient, je vous dis, bon, maintenant petit, on va faire quelque chose. Dieu progressivement est revenu vers l'homme. Dieu a recommencé à retrouver des hommes selon son cœur, avec lesquels certains ont été bons, d'autres ont été mauvais. Des gens comme Saül, Dieu a compté sur eux, tout en sachant qu'ils n'étaient pas fiables. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Mais progressivement, Dieu a reconstruit des échelles entre lui et l'homme. Dieu, qui nous avait coupés de sa présence, a progressivement reconstruit sa présence autour de nous. Et c'est ce que Jésus appelle quand il dit, le royaume des cieux est maintenant proche de vous. Le royaume des cieux est venu à vous. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu le royaume des cieux. Avec Jésus, le royaume des cieux est venu à nouveau à nous. Donc c'est Dieu qui revient et qui dit, il n'y a qu'un seul chemin pour venir à moi. Vous ne pouvez pas par une philosophie ou pas, je ne sais trop quoi, retourner au Père. C'est lui qui est maître. Il vous dit de sortir, vous sortez. Quand il dit maintenant vous pouvez venir, c'est lui qui dit vous venez comment? Le christianisme n'est donc pas une des religions qui essaie de retrouver Dieu. Ce n'est pas une des religions qui s'imagine Dieu comme elle pense qu'il est. C'est Dieu qui prend l'initiative de dire, mes enfants, je vous ai pardonné, partez le mécanisme, revenez, nous allons passer de bons moments ensemble, parce que de toute éternité, je vis pour vous voir heureux. Le christianisme est une alliance avec Dieu. C'est une vie sur la terre et après la terre avec Dieu. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des dogmes, c'est une vie. Et pour parler de Jésus aux gens, pour parler de Dieu aux gens, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'en parler comme une religion. Est-ce que moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de quitter son église depuis que vous me connaissez? J'ai jamais demandé à quelqu'un de quitter sa mosquée. Est-ce que j'ai jamais demandé à quelqu'un de quitter son couvent? Ce n'est pas mon problème où vous allez. Pourquoi ce n'est pas mon problème? Ce n'est pas que tout se vaut. La seule chose qui compte, la seule chose que les gens veulent en réalité en allant dans les religions, c'est retrouver la présence de Dieu avec toutes les merveilles qui en découlent. La présence de Dieu n'est pas dans une église. La présence de Dieu est dans une alliance personnelle avec Dieu. Cette alliance se tisse sur la base des lois que Dieu a établies, contenues dans sa parole, l'ancienne alliance avec l'Ancien Testament, la nouvelle alliance avec les évangiles, donc avec le Nouveau Testament. Dieu, c'est la parole de Dieu. Toute personne qui fait alliance avec la parole de Dieu, toute personne qui connaît la parole de Dieu et marche dans la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu, sera en alliance avec Dieu et va réjouir le cœur de Dieu, va plaire à Dieu, sera béni par Dieu. Quelle que soit l'église dont il est. Évidemment, quelle que soit l'église où vous êtes, si vous comprenez qui est Jésus, que vous connaissez la parole de Dieu et que vous commencez à obéir à la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que sans que personne ne vous le dise, vous vous mettrez progressivement en règle dans tous les domaines avec Dieu. Cette mise en règle, selon le plan de Dieu, peut passer par le fait que vous restiez, par exemple, dans votre religion ou dans votre église et que vous avez même des actions qui vont la transformer. Selon le plan de Dieu pour certaines personnes, cette mise en conformité avec Dieu va passer par la conviction à un moment qu'il faut partir de là où on est. Chacun a sa marche avec Dieu. Ce qu'on oublie, c'est quoi? Des gens comme les Luther, que Dieu a utilisé pour réveiller la parole de Dieu et pour lancer ce qu'on appelle aujourd'hui le protestantisme, le fait de réhonorer la parole de Dieu, de la remettre comme autorité au-dessus des catéchismes et de toutes les bêtises du Vatican. Mais on oublie que ces gars-là étaient des moines catholiques. Le protestantisme, l'évangéliste, tel qu'on le fait aujourd'hui, n'a pas été fait par des gens tombés du ciel. Ça a été fait par les plus grands dignitaires. Un moine, c'est quand même parmi les plus élevés de l'Église catholique. Ce n'est pas parce qu'ils étaient catholiques que Dieu les a maudits. Dieu les a utilisés. Paul a été un grand persécuteur. Dieu s'en foutait de qui il était. Dieu l'a appelé. Quand Dieu finit de t'appeler là, ce qu'il va faire de toi, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de celui par qui il t'a appelé. Quelqu'un va vous dire, je suis musulman. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter d'aller à la mosquée. Va à la mosquée même 10 fois si tu veux. Ma seule question, est-ce que tu veux que ça aille mieux? De toute évidence, si en allant à la mosquée, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu es en paix, tu es riche, ta famille va bien, tu as de l'argent, ta joie est complète. En toute honnêteté, je n'ai rien à t'apporter. Ce n'est même pas la peine qu'on parle. Mais si par hasard, tu as un problème qui semble insurmontable, s'il y a quelque chose qui te fatigue, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si quelqu'un n'est pas fatigué, en toute honnêteté, il n'est pas un candidat pour Jésus. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voyez un homme et sa vie lui plaît en tout point, il est riche, heureux, en paix, il dort bien, sa famille va bien, ses enfants vont bien, il est heureux de la tangente de sa vie, il n'a pas peur pour son avenir, il se sent en paix avec Dieu. Ce n'est pas la peine de lui parler de Jésus. Il n'a pas besoin de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ce qui qualifie quelqu'un pour venir à Jésus, c'est d'être fatigué de la vie qu'il mène. On a parlé ici déjà, quand vous prenez par exemple la campagne électorale de Yahi, ce n'est pas pour rien cette phrase. Ça doit changer. Si quelqu'un ne croit pas que ça doit changer, il ne peut pas se demander si ça peut changer. S'il ne se demande pas si ça peut changer, il ne va rien faire pour que ça change. Même si après on a fait du n'importe quoi, toute révolution, toute réforme commence par un ras-le-bol de ce qu'on vit. Si quelqu'un n'a pas de problème, ne l'évangélisez pas. Jésus dit, je suis venu pour les malades, pour les opprimés, pour les affamés. Il n'est pas venu pour les gens bien portants. Ce que je dis là, je ne blague pas, je suis sérieux. La personne peut faire le malin et au fond de lui savoir qu'il a plein de problèmes. Ça veut dire qu'il a des problèmes immenses, c'est autre chose. Mais si vous croisez quelqu'un, et aussi bien dans ce qu'il dit que dans la réalité, vous voyez qu'il n'a aucun problème, celui-là n'est pas un candidat pour Jésus, laissez-le. Oui? Oui, Zaché pourrait Zaché. Si Zaché ne manquait de rien, il serait venu monter jusque sur un arbre. Il allait laisser son confort pour monter sur un arbre pour guetter Jésus.
De quoi il manquait?
Je ne sais pas. Il manquait certainement de la paix. Il n'avait pas l'assurance de son salut. Il n'était pas aimé. Il était méprisé. Un collecteur d'impôts, je crois, méprisé par les gens. C'est comme si tu es un homme politique aujourd'hui. Tu as officiellement l'argent, tu imposes, mais personne ne t'aime. Tu vas au village, on t'escroque. Tu passes quelque part, on veut te traiter de bandit. On peut te limoger à tout moment. C'est un haut fonctionnaire public. Il a la vie des hommes politiques aujourd'hui. Ils sont heureux. Quand vous le voyez là, ils sont heureux. les coubets qu'ils doivent aller faire, les meetings qu'ils doivent financer, les remerciements forcés, les bœufs qu'ils doivent aller enterrer pour garder leur poste. Vous croyez qu'ils sont heureux? C'est les remerciements forcés? De quoi, je ne sais. Vous croyez qu'ils sont heureux? Que c'est de gaieté de cœur qu'ils laissent leurs femmes et leurs enfants, ils vont au village les week-ends, se faire spolier par tous les villageois en disant qu'ils viennent faire cérémonie de remerciement ou bien pour regretter que quelqu'un a fait quelque chose qu'on ne sait jamais à quelqu'un. Mais qu'ils sont contents? Moi, ils ne sont pas contents. On leur a dit de faire, ils font. Ça, ce n'est pas le bonheur. Quelqu'un comme ça a besoin d'avoir la paix. C'est des gens qui ne dorment pas. Regardez les médicaments qu'ils boivent, c'est pas soin et consort. C'est un médicament de quelqu'un qui se porte bien dans la tête. Non. Prenez, allez en pharmacie, achetez ce poisson, lisez ce que ça fait. On est d'accord? Donc, si un homme se sent bien, est en paix, ne manque de rien, ce n'est pas un candidat pour l'évangile, laissez-le. Peut-être que demain, il aura des problèmes et qu'il va penser à Dieu. Mais là où il est, il n'a pas de problème là. Ce n'est pas la peine de le fatiguer avec Dieu, vous perdez votre temps. Jésus a été clair, il est venu pour ceux qui sont fatigués. Et vous allez voir, la plupart des gens viennent au Seigneur, à un moment où ils sont fatigués. Quand ils ont tout essayé, Jésus dit, Dieu dit plutôt, je vous conduirai dans le désert pour parler à votre cœur. Quand Dieu veut toucher quelqu'un, il le conduit d'abord dans le désert. Il l'écroule d'abord un à un, tout ce sur quoi il comptait. Parce que chacun de nous a des idoles. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? À travers les 10 plaies, Dieu a frappé les 10 plus grandes idoles égyptiennes. Il comptait sur le Dieu soleil, Dieu a assombri tout pour montrer que le Dieu soleil est impuissant. Il comptait sur le Nil, source de fertilité. Dieu transforme le Nil en sang pour dire, moi j'ai autorité sur le Nil. Ils adoraient les grenouilles. Dieu leur envoie les grenouilles dans leur plat. Ils adoraient leur premier-né. Le fils de Pharaon était considéré comme un dieu. Dieu frappe de bord tous les premiers-nés. Dieu a massacré tout ce que les Égyptiens considéraient comme puissant. Pour leur dire, maintenant vous comptez sur quoi? Quand Dieu veut briser quelqu'un, il va briser son couple, il va briser son travail, il va briser son orgueil, il va briser ses finances. Il vous brise par tout un sens que... Vous êtes fatigué pour dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et enfin, tu m'appelles, est-ce que tu veux vraiment que je vienne? Mais tu n'es pas encore prêt. Mais tant que nous ne sommes pas bien brisés, nous ne pouvons pas aller au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de venir au Seigneur. Il faut bien le noter. Le chrétien qui veut partager l'évangile n'est pas l'architecte, n'est pas le maître d'œuvre du salut. Jésus dit d'ailleurs, je crois dans Luc 9, Luc 10, partout où il a envoyé ses disciples, les 12, et puis après les 72 prêchés, il dit, vous avez la chance, d'autres ont semé, vous récolterez. Est-ce que vous avez vu ça? On va lire peut-être ça tout à l'heure. Jésus, quand ses disciples venaient dire, oui, nous chassons les esprits, les gens nous sont soumis, tout ça, Jésus leur disait, vous avez de la chance, parce que vous êtes en train de récolter ce que d'autres ont semé. Ce d'autres-là, c'est le Saint-Esprit. Ce d'autres-là, c'est d'autres personnes. Vous pouvez par exemple aller voir quelqu'un, lui parler de Jésus. Vous publiez quelque chose sur votre site internet. Il ne réagit pas. Il suit Carambéry à la télé. Il ne réagit pas. Vous pensez que bon, c'est qu'il n'a rien eu? Non. C'est des coups qui sont en train d'être portés contre le mur de Jéricho, qu'est le diable dans sa vie. C'est des plaies qui sont en train de frapper ses idoles. Ses convictions tombent. Il est ébranlé. Il fait semblant de ne pas être ébranlé, mais c'est en lui. Quand il va quelque part, des choses se passent. Il se rappelle ce qu'on a dit. Le Saint-Esprit souvent tourmente, travaille, manipule les gens pendant un certain temps. Il est en train de les cuire à petit feu. Vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Le jour où quelqu'un vient finalement, lui dit, viens, tu vas donner ta vie à Jésus, il dit oui. La personne croit que c'est lui qui a tout fait. Mais vous ne savez pas tout ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie avant que vous n'arriviez. Et souvent, quand d'ailleurs les gens témoignent, vous voyez qu'avant que vous ne veniez, leur donner le coup final, le Saint-Esprit avait fait une série de choses qui a préparé leur vie à ce que le coup final soit donné ce jour-là. Cela veut dire qu'en réalité, amener quelqu'un au Seigneur, ce n'est jamais l'exploit de quelqu'un. C'est l'exploit du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. Mais pour que lui convainque là, il travaille la personne, il fait travailler la personne par différentes choses. Même si c'est par exemple quelqu'un qui va chez les féticheurs, Dieu peut même permettre qu'un féticheur dise quelque chose qui va édifier sa foi. Des gens, il va chez un féticheur. Il a toujours été. Puis le féticheur, avant de commencer, dit, bon, Dieu, le seul vrai créateur qu'il y a, je te demande de m'autoriser à faire ce que j'ai à faire. Le gars a toujours entendu ça, il disait rien, il a dit, c'est ce que la gars me disait. Donc lui-même, il a demandé l'autorisation au Dieu dont les gars parlent là. Mais pourquoi alors je laisse les autres pour venir chez lui? S'il lui demande l'autorisation au Dieu pour faire du mal, ou pour faire ci. Moi, je connais par exemple un magistrat qui a donné sa vie à Jésus le jour où il est parti voir un féticheur, comme d'habitude, pour lui faire des choses pour se protéger. Le féticheur lui fait le truc et lui dit, ça va marcher sans aucun problème. Mais il y a un seul interdit que tu dois rigoureusement surveiller. N'accepte jamais que vienne proche de ce truc-là un vrai chrétien. Si c'est les chrétiens de dimanche là, les catholiques, les choses comme ça, ou bien même les chrétiens, les évangéliques qui sont iphoniques, qui sont dans la prostitution, bref, les faux chrétiens là, il n'y a pas de problème, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu rencontres de ces gars là, qui croient vraiment en leur Dieu là, qui le sait vraiment, qui lui obéit vraiment, éloigne-toi au maximum de lui parce que sa seule présence détruit ce que je t'ai fait. C'est la seule chose que tu dois surveiller, tout le reste, ça marchera. Et ça a commencé à faire travail, il dit, mais c'est qui ces gens là, dont la seule présence peut détruire tout ce que lui, qui est le plus grand que je connais, l'a fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à fouiller. Il a commencé à fouiller. Aujourd'hui, il est un grand chrétien. Donc, ce n'est pas notre mérite que d'amener les gens au salut. Nous sommes des ouvriers. C'est quoi un ouvrier? C'est pas ton champ. L'ouvrier, c'est pas lui qui achète le champ. C'est pas lui qui décide ce qu'on va planter. C'est pas lui qui décide ce qu'on va récolter. C'est pas lui qui décide comment on va faire le travail. L'ouvrier ne décide en fait rien de stratégique dans le champ. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Prends les haricots là, mets là. Coupe ci, plante ça, ferme ça. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Si l'ouvrier vient dans ton champ, tu ne lui dis de rien faire, tu dis assieds-toi jusqu'à midi, il s'assera jusqu'à midi. Il n'a pas à se stresser pour dire que pourquoi rien ne s'est passé entre 8h et midi. Ce n'est pas son problème. À partir du moment où sa journée lui est payée, il n'a pas à se soucier de ce qui s'est passé. Ou bien. Mais souvent, nous nous comportions comme si nous étions le maître de la moisson. Je dis que vous n'êtes pas le maître de la moisson. C'est Jésus qui est le maître de la moisson. C'est le Saint-Esprit qui a son champ. Il appelle qui il veut dedans pour récolter quoi il veut, quand il veut. Vous devez juste obéir. Être disponible et disposé pour que quand il vous appelle, vous répondiez. Ce n'est pas à vous de faire des stratégies pour savoir comment toucher beaucoup de gens. Vous pouvez effectivement avoir le cœur, prier, agir naturellement pour faire bien, pour agir avec zèle et passion pour le Seigneur. Mais il faut toujours garder cette humilité de savoir que le vrai maître de la moisson, ce n'est pas vous. Les problèmes de la moisson, ce n'est pas vos problèmes. La preuve, quand vous allez voir, lisez Luc 9, lisez Luc 10, on va peut-être lire si on a du temps. Le Seigneur dit quelque chose qui est redoutable et il le dit chaque fois qu'il les envoie évangéliser. Rentrez dans une maison, donnez votre paix. On ne la prend pas, reprenez-la. Il ne dit pas convainquez-les, expliquez-les, persuadez-les. Annoncez la bonne nouvelle, ils sont d'accord, alléluia. Ils ne sont pas d'accord, partez, secouez la poussière de vos pieds. Il ne dit même pas, changez de méthode, assurez-vous qu'ils ont bien compris. Et ils disent non, partez. Et partout, il parle d'évangélisation, il dit s'ils refusent, partez. Il ne dit pas de les supplier, de venir chaque matin, de se mettre à genoux, de dire pardon, viens à Jésus pour qu'on ait des dîmes, qu'on ait des offrandes. Il n'a pas dit de supplier les gens. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler et être persévérant pour gagner des gens. Mais ne vous stressez pas et ne soyez pas prêt à tout pour que quelqu'un vous dise « Je te suis pour aller au Seigneur ». Ou dans la Bible, vous avez vu que Dieu nous demande de marquer des gens à la culotte, de ne pas les lâcher tant qu'ils n'ont pas dit qu'ils viennent dans votre église. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi-même, ça me surprend. C'est pas ce qu'il a dit? Ou bien... Jésus lui-même, vous n'avez jamais vu faire un débat avec quelqu'un pour le persuader? Est-ce que vous avez jamais vu Jésus faire un débat avec quelqu'un pour le persuader? Et d'ailleurs, quand les disciples sont revenus, ils disaient, maître, nous avons chassé les esprits mauvais, les gens nous obéissaient, nous faisions des miracles, et ils en étaient fiers. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ce n'est pas de ça qu'il faut être fier. Il faut être fier d'être inscrit dans le livre de la vie. Ça veut dire quoi? Les gars viennent dire, j'ai gagné 1000 âmes au Seigneur. Il dit, ce n'est pas de ça qu'il faut être fier. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas que ce n'est pas le plus important. Hein? Mais sois fier d'être dans le livre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on ne doit même pas considérer comme un exploit personnel le salut des âmes. C'est un exploit d'ouvrier obéissant, d'accord. Mais ce n'est pas un exploit. L'exploit, c'est d'appartenir au Seigneur. L'exploit, c'est d'être un des enfants de Jésus. L'exploit, c'est d'être une branche qui est tellement bien rattachée à l'arbre qu'elle porte des fruits. C'est comme si une branche dit, j'ai eu beaucoup de fruits cette année. Quelqu'un dit, ce n'est pas parce que tu es différent des autres branches, c'est parce que tu es bien attaché à l'arbre que tu as beaucoup de fruits. Donc quand tu dis que tu as beaucoup de fruits, là, tu me dis quoi? Je ne sais pas si vous me suivez.
De comprendre cela va vous éviter deux choses. Un, de vous prendre pour un super-héros chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, parce que ça va devenir de l'orgueil. Vous allez commencer à faire des choses par vous-même pour essayer d'impressionner Dieu. Elle ne vous demande pas de l'impressionner. Vous ne pouvez pas l'impressionner. Vous n'êtes que des ouvriers. Et à l'opposé, quand quelqu'un dit non, vous n'allez pas être frustré, être fâché, être en colère dans le genre, j'ai échoué, j'ai parlé, il ne m'a pas écouté, c'est que je ne suis pas bon, je me sens triste. Si ça ne dépend pas de vous, vous n'avez ni être trop content de cela, même si le ciel est en fait quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, ni être très furieux de cela. Ou bien, moi, j'ai géré mon chantier récemment. Quand les ouvriers viennent dessus, il n'y a pas de ciment. Ils ne pleurent pas, ils ne rient pas, ils n'ont pas de soucis. Ils disent le ciment est fini. Si tu mets 10 jours à terminer le ciment, pendant 10 jours, ils ne te répondent pas, ce n'est pas leur problème. Mais ce que nous faisons, c'est comme si nous sommes un maçon, le ciment finit, on commence à dire, comment je vais faire maintenant? Le ciment est fini, le temps est en train de passer, ce n'est pas ta maison. Le ciment est fini, c'est ta maison. Quand le ciment est fini, qu'est-ce qu'un ouvrier fait? Patron, le ciment est fini. Il a dit ça, il commence à faire autre chose. Si ça te plaît, au moment de l'envoi le ciment, il va te répondre. Il n'envoie pas le ciment, lui s'en fout. Ou bien, si un ouvrier commence à pleurer parce que le ciment est fini, on va dire, mais ce gars-là, il est louche. Quel est son problème dans le ciment qui est fini? C'est ma maison. Le ciment est fini, tu m'as déjà informé. Pourquoi tu pleures? De la même manière, quand tu prends un maçon, il finit ta maison, il dit partout que oui, lui, il est un bon maçon. Il vient de construire une grande maison qui coûte 300 millions. Allez, c'est toi qui as construit une maison. Tu n'as jamais mis, tu fais des briques. Tu ne connais même pas la valeur du ciment. Tu ne connais pas la valeur du sable. Et tu dis que de regarder la maison que tu as construite. Quelqu'un qui ne te connaît pas va croire que tu as construit quelque chose. Oh, tu es un maçon. Tu ne sais même pas comment on fait un mur droit. On t'a dit poser les briques, tu as posé les briques, tu as mis le ciment dessus. Et tu dis que tu as construit une maison. Alors que la maison est le fruit de beaucoup de techniciens, d'architectes, d'ingénieurs, de moyens, de gens. Tu n'as même pas la compétence qu'il faut. C'est la combinaison de tout qui a fait la maison. Parce que toi, on t'a autorisé à mettre 10 briques sur ce mur-là. Tu dis que voilà la maison que tu as construite. C'est pareil pour le gagneur d'âme. Le Seigneur veut les âmes. Il veut le salut des gens. Il nous demande de faire du zèle pour cela. Mais nous ne devons pas en faire une question d'orgueil personnel. Je ne sais pas si vous voyez le discernement que j'ai fait d'attirer. C'est important. Important pour ne pas faire du zèle. Il ne faut pas gagner les gens par ses œuvres. On gagne les gens par l'Esprit de Dieu. Et il ne faut pas se frustrer de quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Jésus. Ce n'est pas votre problème. Vous le confiez au Saint-Esprit simplement. Donc, je disais que la foi chrétienne n'est pas une religion. C'est une vie faite de bonnes nouvelles. C'est une vie de joie. C'est une vie de paix. C'est une vie sans souci. C'est une vie de puissance. C'est une vie de miracle. C'est ça que vous devez proposer aux gens. Si vous leur proposez une religion de plus, qu'est-ce que les gens font souvent? Dès que vous leur parlez de Jésus, ils essaient de vous démontrer que leur religion vaut, à défaut d'être meilleure, la religion chrétienne. Ils entraînent le débat sur un débat de religion. Ah, ce n'est pas de débat de religion qu'il s'agit. Pour être honnête, moi je vois beaucoup d'églises évangéliques où si quelqu'un me demande s'il doit y aller, je dirais non. Si être chrétien, c'est d'aller dans certaines églises que je connais, je préfère qu'ils restent païens ou musulmans. Chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, christianistes, il y a de tout partout. Et Jésus en est conscient. Quand vous voyez son message de cette église, il a très bien mis à nu les différentes églises dans leurs forces et leurs faiblesses. Donc, quand quelqu'un commence à résister pour dire « Oui, ma religion », dites « Moi, je n'ai pas de religion à te proposer. » Je ne vais même pas finir maintenant et te dire « Va de telle église à telle église. » Ce n'est pas ça mon problème. Je n'ai pas vu quelque part Jésus aller dans une église. Il a passé son temps à combattre l'équivalent des chefs d'église. Et c'est eux qui l'ont crucifié. Ce n'est pas les païens qui ont crucifié Jésus. Hein. C'est les docteurs de la loi. C'est les gens qui connaissaient le plus Dieu là qui ont crucifié Jésus. Il ne faut pas qu'on monte à quelqu'un. Hein. Ou bien, c'est les sorciers qui ont crucifié Jésus. C'est les musulmans qui ont crucifié Jésus. C'est les gens qui ont reçu l'Ancien Testament, qui prophétisaient Jésus. C'est les gens qui enseignaient la loi, qui prophétisaient Jésus, qui ont crucifié Jésus quand ils l'ont vu. Aujourd'hui, on a des églises où les gens font des pratiques sataniques pour attirer des foules. Donc, si tu dis à quelqu'un que c'est l'église qui va le sauver, tu es toi-même un menteur. Si la personne a pris cet esprit, tu vois que tu es un menteur. Nous ne sommes pas là pour proposer aux gens des églises. Nous sommes là pour leur proposer de réactiver leur relation avec Dieu. Vous voyez ce que je vous ai expliqué au début? Toute puissance, toute bénédiction découle d'une autorité qui vous bénit. Aucune autorité ne peut bénir quelqu'un qui ne la reconnaît pas, qui ne se soumet pas à lui, qui ne lui obéit pas. Donnez-leur des exemples. Je m'en fous de ton église et de ta mosquée. Je veux que tu sois béni. Sommes-nous d'accord que là où tu es, tu n'es pas béni? Si tu es béni, on peut arrêter le débat. Santé, tout va bien, pas de souci. Famille, tout va bien, couple, tout va bien, tu n'as pas peur que ta femme te trompe, tu dors bien quand elle sort, toi-même quand tu sors, elle dort bien, vous n'avez pas de dispute. Bon, vos enfants ne sont jamais malades, n'est-ce pas? Tu paies leur scolarité. Tu voulais avoir une maison, tu l'as déjà eue. Tu rêves d'une voiture, tu l'as eue. Si je te demande de faire une fête de mettre pour 2 millions de francs et faire la joie, tu es capable. Tout va bien, ta vie, parfait, tu n'es pas un candidat pour Jésus, je continue mon chemin. Hein? Non, le ciel est même déjà trop long. Il ne faut pas amener les choses au ciel. Il faut parler aux gens de ce qu'ils voient d'abord. Si quelqu'un ne se sent pas chargé, il faut être honnête. Jésus a dit, vous qui êtes chargé, venez à moi. Si tu vois quelqu'un dire, moi je ne suis pas chargé, ah, alléluia, il faut me dire ton secret, peut-être que moi-même je vais te suivre, et nous allons aller ensemble voir les gens qui sont chargés. Bien au contraire, dès que quelqu'un est chargé, c'est le déclencheur de l'opération. Le vrai chrétien guette les gens chargés. Guette les gens malades, guette les gens affamés, guette les gens opprimés, guette les gens malades. C'est eux qui sont, ils ont faim de Dieu. Ils ne savent peut-être pas que c'est de Dieu qu'ils ont faim. Ils ne savent pas ce qui leur manque. Mais ils savent que quelque chose leur manque. Ils sont en train de tendre l'oreille, de ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui leur manque arriver. Même s'ils ne connaissent pas Dieu au fond d'eux, disent franchement, Dieu où tu es, tu m'as abandonné. Toute personne chargée dit ça dans son cœur. Si vous arrivez à lui montrer la réalité, la vérité aussi, que ce n'est pas une religion que vous lui proposez, mais que vous lui proposez de redécouvrir et de se connecter avec le vrai Dieu, pour rentrer dans une alliance avec le vrai Dieu, connaître le vrai Dieu, faire sa part afin que Dieu puisse se bénir. Si les gens comprennent le mécanisme de l'alliance, dites-leur, mais tu as été partout. Partout, tu as été voir des fétiches. Qu'est-ce que vous appelez un fétiche? Je rentre dans cette religion, on m'a dit que parce que le pasteur a de l'onction, je serai béni. C'est du fétichisme et de l'idolâtrie d'un pasteur ou d'un prêtre. La plupart des églises donnent l'impression à leurs fidèles que le pasteur a tellement d'onction que par au nom de Jésus, vous êtes bénis, les gens vont transformer leur vie. Ou bien, hey, mon pasteur, tu es dans, mon pasteur, tu es né le bibo mieux. Pasteur, c'est Dieu. Il est Dieu. Il a fini de régler ses problèmes. Votre pasteur a fini de régler ses problèmes. Hein? Vous croyez que moi j'ai fini de régler mes problèmes pour régler les vôtres? Qui moi je suis pour régler vos problèmes? Est-ce qu'un maître à l'école règle les problèmes des élèves? Le nombre d'élèves qui passent de sa classe par année, là, il peut régler ses problèmes? Il leur donne de quoi régler leurs problèmes dans la vie. Un serviteur de Dieu n'est pas fait pour régler vos problèmes. Il est fait pour vous montrer le grand Dieu, pour vous connecter à lui, et que quand vous avez besoin de quelque chose, vous puissiez fonctionner avec le grand Dieu. Et demandez aux gens qui disent qu'ils sont dans leur religion que tout va bien. Dans leur religion là, qu'est-ce qu'ils savent de Dieu? Quel contrat ils ont passé avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu fasse sa part? Donnez-leur l'exemple que je viens montrer de l'autorité. Rien que ça leur arrivait déjà. Dieu serait-il quelqu'un qui bénit tout le monde ou qui ne bénit pas les gens selon son humeur? Si c'est ça, franchement, ce n'est pas la peine de suivre Dieu. C'est un capricieux. Ou bien, si Dieu doit faire comme les gens croient là, et au final, il doit faire des mots, il va fournir à Yavi Gandio. Et si vous avez fourni, maintenant béni, oui. En attendant, ils sont en train de pleurer. Moi, on a qu'on y a joué. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Les gens font comme si Dieu n'agissait que par humeur et par. On dit, il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Tous les noms qu'on a donnés à Dieu, là, c'est les hommes qui nous ont donné. Jéhovah, Jireh, tout ça, c'est les hommes qui nous ont donné. C'est des noms que les gens ont donnés à Dieu lors d'une expérience avec Dieu. Mais chaque fois qu'on a demandé à Dieu comment il s'appelait, il a toujours dit « Je suis ». Suis. Ce n'est pas « J'étais », ce n'est pas « Je suis quelque chose », ce n'est pas « Je vais être », ce n'est pas « Je serai », c'est « Je suis ». Il est. Ça ne change pas, ça ne varie pas, ça ne diminue pas, ça n'augmente pas, ça ne s'améliore pas, ça ne se dégrade pas. Il est. Ce qu'il est quand il bénissait Adram, ce qu'il est quand il voit la mer rouge, ce qu'il est quand il bénissait Esther, ce qu'il est quand il bénissait Jésus, ce qu'il est quand il révèle Jésus des morts, il est aujourd'hui dans ta vie. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qui change? C'est les gens. C'est nous qui changeons. Et comme la vie est le point d'intercession entre ce que Dieu fait, ce que vous faites, votre vie est le résultat de la combinaison de ce que Dieu fait, ce que vous faites. Non, si les vies sont différentes, c'est parce que ce que nous faisons n'est pas le même. C'est pour ça, dans Hébreux, on voit bien, des gens qui ont marché avec Dieu, ils ont tous été bénis. Mais on connaît dans la Bible plein de gens qui n'ont pas marché avec Dieu, on voit comment ils ont terminé. Dieu ne change pas. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Je donne souvent des exemples comme les exemples de l'œuf. On te dit que si tu mets de l'œuf dans un incubateur, l'œuf va donner un poussin. C'est un miracle. Vous ne voyez pas que les miracles, c'est tous les jours. Un œuf qu'on mange, qui n'a rien d'extraordinaire, si tu le mets à une certaine température pendant un certain nombre de jours, ça va donner un poussin vivant qui va grandir, qui va pondre des œufs, qui va être une poule et qui peut faire toute une basse-cour après. Un œuf. C'est pas un miracle, ça? Ou bien? C'est ça le miracle? Quand tu perces, tu ne vois pas, tu ne vois rien. C'est des liquides. Mais ça donne un poussin mis à une certaine température, à une certaine humidité pendant un certain nombre de jours. C'est-à-dire qu'il y a une loi par laquelle, quand tu réunis les conditions de la loi, que tu sois gentil ou méchant, ton œuf donnera une vie. C'est une loi. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas si je prie bien Dieu, mon œuf va donner des poussins. Si tu obéis à la loi que Dieu a mise pour passer de l'œuf au poussin, ton œuf donne des poussins, point final. Si tu n'as pas de poussin, c'est soit que tu es parti prendre un œuf sur la vendeuse, sur la tête de la vendeuse de riz. On a dit, prends des œufs, tu vas avoir des poussins. Tu vois une vendeuse de abobo passer, tu prends un œuf dans son plateau et tu mets dans l'incubateur. Et tu restes là, tu dis, Guy Dibé a dit que les œufs doivent donner des poussins. Moi, je n'ai pas vu d'œufs, donc la loi ne marche pas. On va dire, imbécile, tu as pris un œuf bouilli, il fallait prendre un œuf frais. À ce petit détail, de prendre un œuf bouilli, un œuf frais, la loi semble ne pas marcher. Et si tu es ignorant, tu diras que Dieu ne marche pas. Il y a certainement un autre secret. Il doit avoir une autre force par laquelle les gens qui ont des poussins là arrivent à avoir des poussins de leurs œufs. Alors que c'est simplement parce que tu es ignorant. Dès que tu es ignorant, ou bien tu mets la température trop chaude, ton œuf va cuire. Tu ne mets pas assez de lumière, ton œuf ne donnera pas. Dès que tu connais les conditions de l'expérience, les signes de l'expérience, ça donne ce que ça doit donner. Vous périssez faute de connaissance, mon Dieu a dit. C'est cette chose-là qu'il faut dire aux gens, laissez la religion de côté. Quand ils commencent à dire, tu as raison, la religion évangélique est aussi mauvaise que toutes les autres. Tu veux que je t'aide? Les pasteurs sont des escrocs, les fidèles sont des comédiens. Les gens qui vous disent Jésus vous aime là, ils sont les plus grands hypocrites, les plus grands voleurs. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des hommes comme toi. Et c'est vrai ou c'est faux? Quand tu dis ça à quelqu'un, il ne peut plus attaquer la religion pour faire le débat. Alors, si toi tu sais que les évangéliques sont des bandits, qu'est-ce que tu me proposes alors? Justement, laisse les évangéliques. Moi, je ne suis pas évangélique.
Accueille.
Moi, je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas évangélique. Je suis un enfant de Dieu. Je m'en fous du nom qu'on donne à ma religion. Je n'ai pas de religion. Je suis un enfant de Dieu. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit les lois selon lesquelles il veut fonctionner avec moi. J'obéis aux lois. Voilà ce que ça me donne. Si tu veux, quelle que soit ta religion, et c'est mon Dieu. Le christianisme, la Bible, est la seule religion dans laquelle Dieu dit « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Et il fait la différence. Quand vous rencontrez les gens, aidez-les à mettre Dieu à l'épreuve et laissez Dieu leur montrer qui il est. C'est comme si vous me suivez. C'est que vous ne devez pas avoir peur quand vous évangélisez que les gens attaquent une église. Parce que ce qu'ils disent contre l'église n'est pas toujours faux. Il faut être honnête. Ce qu'ils disent contre l'église n'est pas toujours faux. S'ils attaquent l'église que vous essayez de dire que c'est faux, vous montrez que vous êtes hypocrite. Si vous êtes hypocrite, donc si vous êtes un menteur, il est probable que tout ce que vous dites est mensonge. Ou bien, Jésus a traité les dignités religieuses de tombeaux blanchis. Donc quand quelqu'un dit, vos pasteurs là sont tous des escrocs, tu peux dire, ils ne sont pas tous des escrocs, mais il est vrai qu'il y a des escrocs. Toi, tu es quoi? Il dit docteur. Il y a des docteurs bandits, non? Il y a des docteurs qui violent les gens en salle de gynécologie, non? Il y a des docteurs qui sont en train de manger, de boire entre eux pendant que les malades meurent, alors qu'on devait leur mettre une bouteille de gaz, non? Est-ce pour ça que je vais décider que toi, tu es un imbécile, que tu ne vaux rien, que vous êtes tous des bandits, vous les docteurs? Il dit, ah, c'est vrai. Voilà. Les pasteurs sont des hommes. Il y a des bandits parmi eux, comme il y a des bandits parmi les policiers. Mais c'est bien les policiers qui nous sauvent quand il y a des problèmes. Il y a des bandits parmi les magistrats. Mais c'est bien les magistrats qui disent le droit pour qu'on s'en sorte. Il y a des bandits parmi les enseignants. Mais il y a bien les enseignants qui font en sorte que nous avons été comme ce que sont. Les pasteurs, les prêtres sont des hommes. Ils ne sont pas parfaits. Et je suis d'accord avec toi que si c'est pour aller suivre un homme, il vaut mieux rester là où tu es. Et moi, je te propose de voir qu'est-ce que Dieu nous a révélé, sur qui il est, comment il fonctionne. Dieu n'a même pas dit que si tu ne passes pas par un homme, il ne va pas te bénir. Donc, même si nous t'énervons tous là, oublie-nous tous. Vois ce que Dieu a révélé et mets-le à l'épreuve. Ne fais pas un débat de religion. Et donc, pour avancer, il y a plusieurs angles sur lesquels nous allons regarder ce problème de gagner des âmes. Je ne reviendrai pas derrière. Nous avons largement développé les semaines précédentes Pourquoi il est important de gagner des âmes? C'est la seule manière de mettre le ciel en fête. C'est la seule chose ou c'est la principale chose que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous gagnions des âmes, que nous apportions les gens au salut, parce que depuis Adam et Ève, la majorité de l'humanité est esclave de Satan. Satan détruit, Satan égorge, Satan malmène, et en plus de ça, il veut conduire les gens en enfer. Dieu veut éviter aux gens l'enfer, il veut que ses enfants reviennent à lui pour être bénis. Parce que les gens qui souffrent ou qui vont en enfer glorifient la puissance de Satan. Dieu veut que les gens soient heureux et aillent au paradis pour glorifier sa puissance. Donc, c'est une question de défi personnel pour Dieu que de sauver des gens et de les bénir. On n'a pas besoin de supplier Dieu pour bénir quelqu'un. Dieu veut bénir les gens. Dieu est plus pressé de bénir les gens que nous sommes pressés d'être bénis. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'est pas trop lent, que sa main n'est pas courte, mais il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Si nous avons l'impression que Dieu traîne à nous bénir, ce n'est pas parce qu'il n'est pas prêt à nous bénir, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir la bénédiction. Quand Dieu ne nous a pas bénis, c'est qu'il est en train d'user de patience afin que nous arrêtions de faire ce que nous faisons qui l'empêche de nous bénir. Je ne sais pas si vous me suivez. Si tu es une prostituée, tu pries pour avoir ton mari. Dieu sait que si ton mari vient, tu vas le rendre malade. Ton mari vient, tu vas lui donner des maladies vénériennes sexuellement transmissibles. Ton mari vient, il sera la risée de tout le monde parce qu'il est ta femme. Or, ton mari, là, c'est un enfant de Dieu. Si toi, tu es un homme, tu accepterais que sous prétexte de bénédiction, il t'envoie une femme qui a prié pour avoir un mari, alors qu'elle est une prostituée. Quand tu le sauras, tu vas dire, Dieu, tu es méchant, hein? Je t'ai prié, je suis chrétien. On a dit qu'une bonne femme est un cadeau de Dieu. J'étais tranquille. Toi qui es censé me donner une bonne femme, tu m'envoies une prostituée, sous prétexte que tu as beaucoup supplié. C'est ça? Hein? Conclusion. Si une prostituée prie pour avoir un mari, Dieu ne lui en donnera pas. Pas jamais, mais pas tant qu'elle est prostituée. Pas tant qu'elle ne s'est pas répentie. Elle va dire, Dieu n'est pas en train de me donner mon mari. Mais Dieu est en train d'attendre qu'elle arrête d'être une prostituée, qu'elle se restaure pour qu'il puisse l'offrir à un homme sans que l'homme ne dise que Dieu est devenu juste en temps. Dieu n'est pas là à nous bénir. Nous sommes là à obéir. C'est Dieu qui patiente qu'on nous bénisse pour recevoir la bénédiction. Ce n'est pas nous qui patientons qu'il nous bénisse. Lui, il a fini de tout accomplir. Et vous comprenez ça? Le rythme auquel vous êtes béni est le rythme auquel vous obéissez à Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est le rythme auquel vous obéissez à Dieu. Si vous allez dire à quelqu'un que parce qu'il va donner sa vie à Jésus, toute sa vie sera un paradis pendant qu'il ne fait rien, vous êtes un menteur. C'est faux. Notre Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, viens à moi, tous tes problèmes seront réglés pendant que tu fais ce que tu veux. Viens signer un contrat avec moi. Moi, j'ai un contrat à te proposer. Tu as essayé le contrat de Satan, tu vois qu'il n'y a rien dedans. Moi, j'ai un contrat à te proposer. Mon joug là, il est léger. Mon fardeau n'est pas lourd. Viens, prends mon fardeau, prends mon contrat, prends les engagements que je veux et regarde ce que moi je ferai. S'il dit que mon joug est léger, ça veut dire qu'il y a quand même un joug. Jésus aussi a un joug. Il y a la part du contrat que nous devons honorer avec Jésus. Viens le prendre. Il dit, personne ne peut me suivre s'il ne décide de prendre sa croix. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de venir à Jésus en lui disant il n'y aura pas de croix. Tu es un menteur. Si la croix ne lui plaît pas, tant pis pour lui. Il faut lui dire la vérité. Viens à mon Dieu. Prends sa croix. Prends son joug. Mine de rien, c'est une croix, mais ce n'est pas si lourd que ça. C'est beaucoup moins lourd que ce que Satan te donne aujourd'hui. Et tu verras la différence. S'il dit je ne veux pas prendre ma croix, je ne veux pas lui obéir. Donc reste là. Quand tu ne seras pas obéi, viens. Mais dis pas viens. Même si tu ne veux pas obéir, viens. Non. S'il n'obéit pas, il n'aura rien. Et en réalité, c'est plus convaincant pour un homme de rencontrer un Dieu qui est logique dans ses bénédictions que le Dieu qui dit « Je vais te bénir, on ne voit jamais sa bénédiction. » Le pasteur a beau crier tous les vendredis, brûler tous les esprits dans le feu, rien ne change dans la vie des gens. Les gens finissent par devenir incrédules parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Ils finissent par déduire que c'est Dieu qui ne marche pas alors qu'on ne les a pas mis dans une alliance. Vous me suivez? Donc, Dieu veut donc que nous gagnions des âmes. On a déjà dit, vous êtes des ouvriers, vous n'êtes pas les maîtres de la moisson. Lui prépare le terrain, vous venez cueillir. Vous êtes des cueilleurs d'âmes, ce n'est pas vous qui plantez les âmes. Maintenant, plusieurs choses que nous allons voir. On l'a vu la dernière fois, je crois, avec Jean 9, 5. On n'a pas besoin d'être un expert de Dieu pour gagner des gens. On l'a vu avec cet aveugle-là, aveugle né de naissance. Jésus l'a rencontré. Jésus a voulu le bénir. Il a pris de la boue. Il a mélangé à son crachat et l'a mis dans ses yeux. Mais le gars n'a pas vu immédiatement. Il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Siloé veut dire envoyer. Et nous avons démontré ici que l'homme est fait de boue et de la parole de Dieu. qui est le fleuve spirituel, la boue qui est la terre, avec le crachat de Dieu, c'est exactement ce qui fait un homme. Nous sommes tous de la boue avec le crachat de Dieu. Cette personne-là, qui était naissant des globes, Dieu a mis ou des yeux, c'est de la chair, ou la vie en droit, quelque chose de banal, d'humain, vous et moi, en lui. Ça ne donnait pas la vue, parce que vous et moi, on ne peut pas donner la vie, la vie et la vue à quelqu'un. Mais dès que nous sommes envoyés ensemble, pour aller nous baigner dans l'eau de vie, dans les fleuves d'eau douce, qui sont la parole de Dieu, dès que nous rentrons dans la parole de Dieu, quand nous en sortons, il voyait. Vous, vulgaire homme comme moi, n'ayant rien d'état, rien d'autre que de la boue, vous ne pouvez rien faire. Lui, aveugle, c'est quoi un aveugle naissance? Oh, chacun est son Dieu, laissez ça, Dieu nous aime tous, le plus important c'est de faire le bien, c'est des aveugles. Nous sommes, la plupart des gens sont spirituellement aveugles. Un païen, c'est quoi? C'est un aveugle spirituel. Il ne connaît rien de la réalité, il n'a jamais vu le royaume des cieux. Il ne connaît rien de la puissance de Dieu. On est d'accord? Un païen, c'est un aveugle de naissance spirituellement. Il n'a jamais vu la vérité. Il ne voit que la réalité. Pour lui ouvrir les yeux, on prend un homme qui n'est rien, avec cet homme-là qui est envoyé vers lui. Si ensemble, il rentre dans la parole de Dieu, il ouvre forcément les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux au monde. Et c'est ça, Jésus dit, nos yeux sont la lumière du corps. Si vous êtes envoyé, vous êtes mis dans les yeux de quelqu'un, vous devenez, d'après cette parole, sa lumière. Or, Jésus dit, vous devez être la lumière du monde. Jésus a fait de cette boue-là la lumière de ce gars, puisque Jésus dit, la parole de Dieu dit que nos yeux sont la lumière du corps. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes que boue et crachat de Jésus. Mais quand il vous met dans le monde, si vous allez ensemble, vous acceptez d'être envoyé dans la parole de Dieu, le monde ouvrira les yeux. Pas parce que vous êtes fort, parce que la combinaison de vous, de l'obéissance du monde qui accepte de recevoir vous et le tout mis dans la parole, ça donne quelqu'un qui n'avait jamais vu, qui subitement, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est bien d'ouvrir les yeux, quand un bébé naît, quelle est la première chose qu'il fait? Il ouvre les yeux sur le monde. Naître de nouveau, c'est ouvrir les yeux comme un bébé qui vient de naître. C'est ce que représente cet aveugle-là. Mais ce n'est pas faire la partie la plus intéressante pour nous. Vous avez remarqué qu'on dit, mais les gens de la ville où il était, quand ils le voyaient, ils disaient, mais c'est pas l'aveugle né de naissance là, ça. Le gars disait, oui, c'est moi. On lui dit, mais comment tu as fait pour voir? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qu'on appelle Jésus, il ne sait même pas si c'est vrai ou faux. Il dit, celui, le quelqu'un qu'ils appellent Jésus là, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Comment il a fait? Je n'en sais rien. Il a pris la boue, il a pris son crachat, il l'a mis dans mes yeux. Il m'a dit d'aller dans le réservoir sulé. J'ai vu. On dit, renonce à ça, dit que c'est faux, il dit non. Vous voyez bien que c'est vrai, pourquoi vous voulez dire que je disais faux? Point final. On appelle ça le témoignage. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de la parole de Dieu. Et la Bible montre bien que, à cause de ce type-là, beaucoup de gens commençaient à suivre Jésus. Ça veut dire que ce type-là a été quelqu'un qui a drainé des gens derrière Jésus, sans être, il ne connaissait même pas Jésus. Celui qui dit, celui qu'on appelle Jésus-là, c'est qu'il ne le connaît pas. Il ne peut pas vous faire de théories sur la divinité, la rédemption, la croix, il n'en sait rien. Lui sait que quelqu'un qui s'appelle Jésus a fait telle chose qu'il a vue. Et quand il dit au monde que quelqu'un qui s'appelle Jésus a fait ça et que le monde voit ça en lui, ça suffit pour que le monde suive Jésus. Quitte à ce que Jésus leur parle, quitte à ce que les serviteurs de Dieu leur parlent. Et c'est pour ça que je parle des fruits. Votre vie doit avoir des miracles. Votre vie doit porter des fruits. Que le monde qui est autour de vous va voir pour demain. Ce n'est pas le chômeur invétéré qui dormait ici, qui mangeait à bobo tout le midi là, ça. C'est bien moi. Ce n'est pas le gars qui se bat tous les jours là, ça. C'est quoi? Tu es malade? Pourquoi tu ne t'es pas battu aujourd'hui? Laisse tomber, Jésus est passé par là. Ce n'est pas la femme impolie à Caria qui rentre à 3h du matin, tabasse son mari avant de dormir tous les jours, ça. Oui, c'est bien elle, mais Jésus est passé par là. Les miracles, ce n'est pas seulement des guérisons du corps. C'est toute chose qui surprend les gens en vous. Un gars timide qui ne parlait jamais, il vient quelque part, il commence à parler, les gens se présentent, dit, c'est pas tel là ça. Quand les gens sont surpris, quand les gens voient la différence entre vous ne servant pas Dieu et vous servant Dieu, ils sont curieux, ils disent, mais c'est le même. Dès qu'ils disent c'est le même, vous avez une opportunité de les amener au Seigneur. Oui, c'est le même. Ce n'est pas le même par hasard, c'est le même parce que entre-temps, voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà ce qui m'est arrivé. Je ne peux même pas vous expliquer comment ça s'est passé. Mais je sais que j'ai été convaincu. Je sais que j'ai senti. Je sais que depuis, j'ai toujours des problèmes, hein, mais j'ai la paix. Je sais qu'il y a une solution. Et quand je fais ci, je vois tel résultat. Je sais que je comprends où je vais. Je sais d'où je viens. Quand vous commencez à parler à quelqu'un comme ça, le fait que vous ne soyez même pas un expert de Dieu, mais quand vous donnez votre témoignage, est plus convaincant pour quelqu'un que d'essayer de jouer l'expert et d'être mauvais. Quand nous évangélisons, nous mettons devant des gens, et nous nous mettons à développer des théories que nous ne comprenons pas, affirmant des choses ridicules et contradictoires sous prétexte que c'est la parole de Dieu. Or, les gens du monde n'ont pas Dieu, mais ils sont intelligents. Ils sont logiques. Je revois encore quand moi, on a essayé de m'évangéliser, la question que je leur posais, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais ils ont chaud. Non, les païens ne sont pas des imbéciles, ils ne sont pas des idiots. Et je dirais qu'en termes d'intelligence naturelle, ils sont en moyenne au-dessus des chrétiens. Il ne faut pas qu'on se raconte des bêtises. Paul était bien plus intelligent que tous les disciples de Jésus réunis. C'est clair, non? Parfait. Donc, on ne peut pas se mettre. Quel disciple de Jésus pourrait se mettre devant Paul et commencer à lui expliquer par des théories que Jésus est sauveur? Qui parmi eux pouvait se tenir devant Paul et lui expliquer logiquement que Jésus est Seigneur? Dieu a dû le prendre en charge lui-même. D'abord l'aveugler du monde. Dieu l'a empêché de voir ce qu'il voyait d'abord. L'a brisé. L'a fait prendre par des gens qu'il combattait pour le sauver. Est parti le cacher dans un désert. Et l'a parlé à son cœur. Quand vous suivez bien Paul, tout ce qu'il enseignait lui a été directement révélé par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas votre problème que de jouer le docteur de la parole de Dieu avec chaque personne que vous voulez convertir. Et ne vous sentez pas complexé, dit, je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas apporter quelqu'un au Seigneur parce que je ne m'y connais pas, je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas votre problème. Il vous suffit de dire, quelqu'un qu'ils appellent Jésus. Moi-même, je viens d'arriver des gens, je ne connais pas. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà comment je me sens. Voilà pourquoi je crois que, en tout cas, il y a quelque chose là qui vaut le coup d'être fait. Cette honnêteté dans le témoignage séduit davantage les gens que d'essayer de jouer l'expert, sachant qu'ils se rendront rapidement compte que vous n'êtes pas un expert de la parole de Dieu. Or, chaque fois que les gens découvrent que vous êtes en train de mentir, ils considèrent que vous êtes un menteur. Attention, chaque fois que les gens vous surprennent en flagrant délit d'un mensonge, ils ont tendance à tirer la conclusion que vous êtes un menteur. Donc, ils considèrent que tout ce que vous dites relève de la même catégorie du mensonge. Si quelqu'un te pose une question sur Jésus, tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Je me pose la même question. Mais sais-tu, il y a des gens que je connais qui ont fait ce chemin avant nous. Je vois leur vie, elle me plaît pour telle et telle raison. Et quand je leur pose la question, il semblerait vraiment qu'ils sont connectés à la source. Ils disent des choses tellement claires. Et si on y allait, c'est une heure de temps, c'est deux heures de temps. Suis-moi mercredi prochain, on va aller là-bas. Ce qui est bon, c'est que ce n'est pas comme à l'église où mon père parle, ou bien le pasteur parle. Amen, alléluia, au nom de Jésus, et tu t'en vas. Tu as la possibilité de leur poser des questions. Et ils ont l'obligation par le Saint-Esprit, ou là, ou tôt ou tard, de te répondre. Qu'est-ce que ça te dirait qu'on aille voir? Ayez l'honnêteté et l'humilité du témoignage. Ne cherchez pas toujours à impressionner. Invitez les gens à venir explorer. Vous pouvez même dire, j'ai découvert un truc là, ça m'impressionne. Moi qui ne dormais pas, maintenant je dors. Moi qui avais peur, je n'ai plus peur. Je ne sais pas si tout est sérieux. Viens, on va aller voir ça ensemble. Si c'est mauvais, on va vivre sa rencontre ensemble. Si c'est bon aussi, on va le découvrir ensemble. Vous amenez bien vos amis pour aller découvrir un nouveau bar, non? Ils ont besoin d'être convaincus que c'est le meilleur bar de la ville pour suivre, pour aller dans un nouveau bar. Quand il y a une fête d'anniversaire, vous faites comment pour convaincre vos amis d'aller passer la soirée à boire avec vous, à se saouler avec vous? Quand il y a une fête à la plage, vous faites comment? Pour que même des gens qui n'ont pas envie de pécher, vous les attirez avec tellement de persuasion, ils vont là-bas, ils tombent dans le péché. Comment vous faites pour les convaincre? Comment vous faites? Quand il s'agit d'amener les gens à Jésus, vous ne savez plus faire ça. Vous êtes trop timide pour dire aux gens de vous suivre pour aller découvrir. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ce que je dis est clair ou bien ce n'est pas clair? Il y a des questions, je vais les répondre rapidement avant de continuer.
Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ce thème qui contient le gain des âmes. Et c'est le seul lot de missions que notre Seigneur Jésus nous a laissé dans son bon de commande. Et la question que j'aimerais poser est celle-ci. Si nous sortons et nous exécutons ce bon de commande que Jésus nous a laissé, est-ce que j'en sais et que l'Église constitue, ou bien l'Église est bien placée pour faire le suivi des âmes. Si je sors, je prêche l'Évangile, bon, souvent, si moi, je finis de prêcher, je donne un petit peu de conseil à la personne à qui j'ai prêché avant de partir. Et la personne a ses amis qui sont des catholiques, les célestes, et j'en passe. Et pour moi, ce que je fais souvent, je dis au moins à la personne de choisir une église évangélique. Et dans votre développement, vous avez bien abordé ce point. Donc, j'aimerais demander si, en disant cela, si je suis trop parti, si c'est un péché. Merci.
Non, ce n'est pas un péché. Demander à des gens d'aller dans une église évangélique, c'est bon, c'est vrai. Si des gens y vont, c'est tant mieux. Mais ce que j'essaie de vous dire, j'ai peut-être exagéré, mais c'est que pour être sincère entre nous, l'hypothèse selon laquelle une église évangélique est toujours meilleure qu'une église catholique est fausse. L'hypothèse selon laquelle une église catholique est toujours meilleure qu'une église de christianisme céleste est fausse. Moi, j'ai vu par exemple en Côte d'Ivoire des églises catholiques qui, avec, je crois, de jeunes prêtres, un peu comme à Cotonou, ici, il y a le père Mehdi qu'on sort, il y a quelques jeunes pères catholiques rebelles qui, quand vous les suivez, sont des évangéliques dans l'église catholique. Vous prenez un peu les gens du nouveau charismatique en certains endroits. Il y a des gens du nouveau charismatique qui connaissent mieux le Saint-Esprit et l'adorent mieux que des évangéliques. Il y a des pasteurs au Bénin ici qui sont pires que des féticheurs et qui ont des gris-gris, des trucs occultes plus terribles que féticheurs. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, dites-leur que je l'ai dit. Il y a des églises qui perdent beaucoup plus d'âmes que féticheurs parce qu'ils sont l'antéchrist. Ce qui est dangereux dans l'antéchrist, c'est que ça ressemble à Jésus. Les gens courent avec l'assurance du Jésus alors que c'est le diable. Quand je connais mon ennemi, il n'est pas dangereux. L'ennemi le plus dangereux est celui qui se fait passer pour un ami. Il y a beaucoup d'églises de toute obédience qui sont des vrais repères de Satan, qui sont des pièges pour des âmes naïves. Donc, chaque église a ses forces et ses faiblesses. Les christianistes célestes, par exemple, sont les champions de la louange. Tu ne peux pas faire de discours pour dire que si tu prends toutes les églises, s'il y a quelqu'un qui loue, pas adore, mais qui loue plus Dieu que les autres, c'est bien les chrétiens célestes. Que ça te plaise ou non. Or, Dieu siège à la louange. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'à cause de leur péché d'idolâtrie par ailleurs, Dieu n'est pas le chrétien céleste? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des gens qui ont une grande foi. Or, Dieu dit que nous sommes justifiés par notre foi. Voilà, ils sont en même temps dans l'idolâtrie. Dieu dit l'idolâtrie est adultée envers lui. Dans tous les cas, quand vous prenez une église catholique, elle a des forces, une meilleure organisation. Le désordre où n'importe quel vulgaire paysan se met sous un arbre et dit « Jésus vous aime » et puis tout le monde vient, il lève croque les gens alors qu'il ne connaît rien à la Bible. Il y a plein de pasteurs qui mettent la Bible à l'envers et prêchent. Les gens disent « Amen » ou bien. Bon, vous ne verrez jamais ça à l'église catholique. Il y a une organisation et notre Dieu est un Dieu d'organisation, un Dieu d'ordre. On a beau dire tout ce qu'on veut, si on prend le monde entier, le plus grand nombre de chrétiens est catholique. Ça veut dire que les catholiques ont été les plus puissants dans l'évangélisation, que ça nous plaise ou non. Même s'ils ont évangélisé avec la fausse évangile, ils ont été ceux qui ont gagné le plus d'âmes en griffe. C'est un fait. Vous prenez les églises protestantes. Quelle est leur force? C'est les seuls qui disent la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, c'est notre loi, nous ne touchons à rien d'autre. C'est l'intégrisme par rapport à l'authenticité et au respect de la parole. C'est la plus grande valeur qu'il soit. Mais à côté de ça, l'escroquerie, le désordre, la pagaille, le paganisme qui est en train d'entrer dedans, sont des réalités. Et moi, j'ai arrêté de me stresser pour les églises le jour où j'ai lu, je crois, Apocalypse 3, le message de Jésus aux sept églises. Jésus prend chaque... Lisez ça. Dit l'église de Laodicée. Toi là, je t'aime pour ci, pour ça, pour ça. Mais attention, tu fais telle chose que je n'aime pas. Ceux qui en restent au milieu de toi vont se repentir. Ils auront la couronne de gloire. Je n'ai jamais vu dans le message de cette église quelque part, j'ai dit, vous qui êtes dans cette église, allez dans l'église de Philadelphie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quitter son église. Hein. Mais ce sur quoi Jésus a insisté en parlant aux sept églises, c'est où que tu sois, si tu reviens à ma parole, tu seras béni. Évidemment, on ne peut pas revenir à la parole en faisant certaines choses. Si je suis catholique, personne ne m'a moi jamais demandé de quitter l'église catholique. On m'a dit, suis la parole. Et j'ai un cerveau. Quand je commence à lire la parole, tôt ou tard, je vais aller voir mon prêtre pour dire, mon père, pardon, hein, notre affaire de mari là, d'abord je lui ai dit, est-ce que la Bible c'est vraiment notre livre? Vous êtes sûr que c'est ça qui est autorité? Il dit oui. C'est vraiment en ça que nous croyons à la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Il dit oui. Vous êtes sûr que c'est plus important que tout? Il dit oui. Bon, maintenant là, on parle plus de Marie ici que de Jésus. Mais je n'ai pas vu ça dedans, c'est écrit où? Rapidement, je vois qu'il n'a pas de réponse, ça veut dire que c'est écrit nulle part. À ce moment-là, si mon critère c'est vraiment d'obéir à la parole, on n'a pas besoin de me dire de quitter l'église catholique. Alors que moi, je prends le bagage pour commencer à dire, Seigneur, tu veux que j'aille où? Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui, suivant la parole, vont arriver à des carrefours. Ils vont partir même plus vite que vous de là où ils sont. Il y a d'autres qui vont plutôt avoir la conviction qu'ils ont vocation à rester là, mais à combattre là pour imposer la parole. Même quand vous prenez Luther, Luther est resté d'abord catholique et il a essayé de commencer à remontrer la vraie parole aux catholiques. À un moment, c'est même qu'ils l'ont chassé pour dire vraiment tu es dangereux, on t'excommunie. Là, maintenant, il est libre de faire autre chose. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire aux gens d'aller dans n'importe quelle église. Mais ce qui est important, c'est de dire aux gens, revenez à la parole. Où que vous soyez et où que vous irez, si vous voyez quelqu'un faire quelque chose de contraire à la parole, interpellez-le dessus. S'il vous montre où dans la parole on l'autorise à faire ça, d'accord. S'il n'est pas capable de vous le montrer, qu'il revienne à la parole, ou alors vous devez le fuir. Parce que vous allez envoyer les gens dans les églises évangéliques, où ils vont vendre de l'eau, où ils vendent des mouchoirs magiques. Il y a des églises évangéliques qui vendent des bougies. On vend du miel. On achète des chicottes et on chicote Satan. Vous dites au gars d'aller à l'église évangélique. Est-ce que ça là, c'est à ça que vous l'envoyez? Hein? Dieu dit, n'ayez crainte de rien. Que rien ne vous effraie. On prend la télé à 23h tous les mercredis. Et on dit aux gens, vous voyez, Satan a des grandes oreilles. Il a des griffes de fer. Il va vous déchiqueter. On effraie les gens pour qu'ils aient tellement peur qu'ils courent à l'église pour demander au pasteur de les bénir. Et là, on va leur dire, Dieu m'a dit, si tu as 300 000 francs, tu as une grande bénédiction. Toi, tu as 1 000 francs, va là-bas. J'ai vu des gens de mes yeux, ils ont dit ça comme ça dans les églises. Que Dieu dit qu'il y a une grande bénédiction pour quelqu'un, 300 000 personnes. Bon, il y a une demi-bénédiction pour quelqu'un à 100 000. J'ai vu de mes yeux, hein. Et la bénédiction diminuait. À un moment, ils ont dit 300 000, le gars est venu, un pauvre là. On se disait tout, mais lui, il a 300 000. Il dit, tu as combien? Oh, je ne veux pas venir. En tout cas, j'ai vu de mes yeux à côté de nous ici, à quoi pas de mes yeux. J'affirme même parce qu'il fait ça devant moi, on ne m'a pas raconté. Foulquin, j'ai dit des gens qui ont 300 000, idiot va. J'ai vu le pasteur dire ça. J'étais témoin. Dans ce Bénin, à quoi quoi? J'affirme. Alors, quand c'est comme ça, s'ils ne sont pas censés mentir, est-ce que tu es sincère quand tu dis aux gens, va seulement dans une église évangélique, tu es sauvé? C'est fou. Il faut lui dire, c'est la parole. Ne te presse pas pour changer. Lis la parole. Quand tu découvres dans ta propre vie, dans une église ou n'importe où, quelque chose de contraire, réponds-toi, aligne-toi sur la parole. Il est vrai que l'église évangélique honore plus ou moins la bouche, la parole. Et qu'il y en a qui sont plus sincères avec la parole. Le Saint-Esprit te convaincra. Mais ce que je te demande, va même à la mosquée si tu veux. Mais tout le temps, de temps en temps, lis la parole, obéis à la parole, éprouve la parole. La parole de Dieu est une loi. Que tu sois gentil ou méchant, quand tu mets un grain de maïs en terre et que tu l'arroses, ça donnera un épi de maïs. Que tu sois gentil ou méchant, si tu mets trop de sel dans une sauce, elle sera trop salée, tu ne pourras pas la manger. Si tu la dilues, le goût diminue. C'est des lois de la vie. Tu sois gentil ou méchant, quand tu lances quelque chose en l'air, il va retomber, à moins de créer une force contraire pour la bloquer. C'est des lois de la vie. De la même manière, quand tu fais ça avec Dieu, ça donne ça. Ce n'est pas que je veux que tu crois. Applique, essaie, et tu verras si mon Dieu ment. Les gens sont prêts à essayer plein de choses aujourd'hui, non? On voit quelque chose d'internet, on voit. Les gens font pipi thérapie dans ce pays, non? On a dit d'essayer de boire le pipi, ils vont guérir. Les gens ont vu, non? Ils ont fait caca thérapie dans ce pays, non? On a dit manger le caca, ils vont guérir, non? Vous ne connaissez pas caca thérapie dans ce pays? Moi, je connais des gens qui ont mangé leur chair dans ce pays. Qui a connu ça? Qui a connu caca thérapie? Moi, il y a eu caca thérapie, il y a eu pipi thérapie dans ce pays. Regardez, je vous bouille, vous allez voir. Ça, c'est du caca thérapie, entre autres. Regardez le film Zougoui. Les gens faisaient des gargarismes avec leur pipi. Des intellectuels, des cadres, des docteurs urinaient, mettaient en bouteille, laissaient le matin, faisaient des gargarismes avec leur pipi. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai des parents qui ont fait ça. Quand les choses arrivent, on dit forever, on dit si, et puis c'est la mort, tout le monde est dessus. L'homme est prêt à faire n'importe quoi pour être heureux. Alors qu'ils essaient, oh mon Dieu. Mais pour essayer Dieu, il faut connaître ce qu'on veut essayer. Je ne peux pas essayer d'appliquer une formule quand je ne connais pas la formule. Enseigne-leur la formule, dites-leur, reste dans ton église si ça te plaît. Ce n'est pas qu'ils vont rester dans leur église à vie. Hein. Le moment venu, ils n'ont pas besoin de vous pour partir. Ne vous attaquez pas aux églises parce que, écoutez, sur la base de quoi vous allez justifier que vous vous attaquez à leur église et pas à une autre. Si c'est que leur église n'est pas parfaite, aucune église n'est parfaite. Jésus même, dans le message de cette église, n'a pas pu trouver d'église parfaite. Donc, qui vous êtes pour leur expliquer que leur église ou leur religion est mauvaise? Vous ne pouvez pas y arriver. Mais la parole est unique. Ramenez derrière la parole. Et le Saint-Esprit fera la différence. Je ne dis pas de ne pas dire aux gens d'aller dans une église évangélique. Hein. Dites-leur d'aller là où on enseigne la parole. Jusqu'à preuve du contraire, on l'enseigne beaucoup dans les églises évangéliques. Qu'ils y aillent. Mais dites-leur, comme le disait le pasteur Camille, d'avoir des tamis spirituels. La Bible nous le dit. Quand vous entendez une vérité, éprouvez-la. Et n'en retenez que ce qui est bon. Un chrétien a le droit d'éprouver la parole. Vous devez le dire, même moi qui suis ici, si je te dis quelque chose, tu vas vérifier, c'est faux. Viens me dire, mon frère, c'est pas ça qui est écrit. Si nous ne trouvons pas là où ce que j'ai dit écrit, c'est toi qui as raison. Mon Dieu, c'est comme la loi au tribunal. C'est pas on dit, ah, l'avocat là, c'est le bâtonnier. Comme il a dit que c'est comme ça, on doit le faire comme ça. Non, le bâtonnier doit justifier en vertu de quelle loi il veut que ça se passe comme ça. Le magistrat, même si tu prends une décision, si tu ne peux pas justifier selon quelle loi, la cour constitutionnelle va casser ta décision. Ça, c'est la justice. Et mon Dieu est juste. Il dit, obéissez à la parole. Surtout si vous êtes catholique, votre église reconnaît la parole. D'accord? Prenez, offrez-leur la Bible, Tob. Ne dites même pas de prendre Bible Louis II. Parce que vous oubliez, c'est quoi? La Bible Tob n'est pas différente de la Bible Louis II. La Bible Tob, c'est Louis II plus des livres qu'ils ont choisi d'ajouter. Ce n'est pas grave. Mais dans le Tob, il y a tout Louis II. Ou bien? Donc, si vous demandez aux gens, ne prenez pas telle Bible, prenez telle Bible, on croit que vous donnez. Prenez leur Bible. Les versets qu'il y a dans Louis II sont les mêmes que ceux qu'il y a dans le Tob. C'est avec la Bible Tob, la Bible de l'Église catholique, qu'il faut leur montrer ce que Dieu dit. Et s'ils ne sont pas idiots, ils verront la vérité. Je ne sais pas si vous ce que je veux dire.
Merci. Moi, je voudrais demander, parce que tout à l'heure, dans votre intervention, il est apparu plusieurs fois que Dieu conduit généralement ceux qu'il veut appeler dans le désert. J'aimerais demander, au fait, est-ce qu'il est nécessaire que pour venir à Dieu, de passer par si tant d'épreuves avant de venir à Dieu? Parce que généralement, quand on est, c'est vrai que quand on est beaucoup plus fatigué, on a tendance à se tourner vers lui. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire que d'éprouver si tant l'homme avant qu'il ne se tourne vers Dieu?
La réponse est claire dans la Bible. À l'homme intelligent, des conseils suffisent. Au sot, il faut le bâton pour comprendre. Dieu dit ça dans sa parole. Dieu ne veut pas fatiguer quelqu'un. Regardez avec l'Égypte. Moïse est venu d'abord dire, laisse, on peut partir. Moïse n'est pas venu dire, Dieu va te donner 10 plaies. Moïse dit, laisse, on peut partir. Il dit non. Moïse dit, ok, pas. Il commence à dire, oui, bon, c'est que je suis prêt à te suivre, mais Marie, on ne touche pas. Pas. Bon, oui, d'accord, Marie, tu peux prendre, mais mon chapelet, quand même, faut ça. Pas. C'est comme ça que Dieu a appliqué 10 gifles à l'Égypte. Jusqu'à moi, il dit, bon, maintenant, ça suffit. Je laisse tomber, je te suis, j'obéis à la parole. Et même là encore, il partait, il a encore voulu poursuivre jusqu'à la mer l'a englouti. Il ne faut pas que vous soyez de ceux que la mer a englouti parce que vous êtes entêté contre la parole. Maintenant, Dieu n'éprouve pas pour le plaisir d'éprouver. Mais nous sommes des hommes, nous vivons selon la chair. Tant que ça va bien, nous ne sentons pas qu'il est indispensable de nous reconnecter au Père. Tant que ça va bien, nous ne sentons pas qu'il est indispensable d'être proche du Père. Si quelqu'un a la grâce de la sagesse, qui fait qu'à peu de choses, il est sensible à Dieu, vient à Dieu, Dieu ne le torturera pas. Et arrêtez, comme je dis, ce n'est pas Dieu qui vous torture. C'est que plus vous restez loin de Dieu, plus vous êtes à la merci de Satan, et plus Satan vous frappe. Plus vite vous venez à Dieu, plus vous êtes sous la protection de Dieu. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous, il a fallu que Dieu nous donne un certain nombre de gifles, comme en Égypte, afin qu'on ne capitule. Mais c'est à nous de choisir combien de gifles il nous faut avant d'obéir. Ce n'est pas à Dieu de le choisir. Il lutte de passer jusqu'à ce que tu comprennes. Si ton enfant est voleur, tu le menaces une fois, il ne vole plus jamais. Tu ne veux pas dire qu'il faut le frapper bien pour qu'il comprenne la leçon? Tu le menaces une fois, il ne comprend pas. Tu le gifles, il ne comprend pas. Tu le frappes, il ne comprend pas. C'est là que tu vas l'attacher. Mais il n'y a pas de père qui prend son enfant le premier jour qu'il faut, je l'attache, je le frappe pendant une heure de temps pour être sûr qu'il comprendra bien la leçon. Quand il en arrive là, c'est que tu as décidé de te rebeller à toutes les formes plus douces qu'il a utilisées pour te mettre en garde. Une autre question? Oui.
Je vous remercie. Et ce que j'aimerais demander, lors d'une évangélisation, lorsque tu rencontres la personne et il t'amène sur le plan doctrinal de l'Église.
C'est-à-dire, concrètement?
Non, c'est-à-dire, bon, je prends un exemple simple. Tu rencontres, par exemple, un christianisme, et puis lorsque vous commencez ces histoires des pratiques doctrinaux et qu'ils font là, ils t'amènent sur ce chemin.
Oui, comme quoi, par exemple, un exemple de pratique sur lequel t'amènes?
Je parle des bougies. Mm-hmm. Pourquoi on doit utiliser les bougies et les cérémonies qu'on fait à la plage? Quand ils t'amènent sur ce chemin, est-ce que si tu veux bien faire, tu clôt le débat et tu prends ton chemin ou bien tu mènes le débat avec lui?
Alors, ce que j'ai appris de ma petite expérience et qui semble être confirmé par les Écritures, c'est qu'il faut avoir le discernement. Et Dieu nous le donne souvent. Et il y a deux catégories de personnes qui posent des questions, qui vous entraînent sur des débats. Il y a des gens qui n'ont aucune envie de vous écouter. Leur cœur n'est pas préparé. Ils ont envie de se masturber intellectuellement, comme j'aime bien le dire. Et bon, c'est des petits jeunes immatures qui n'ont encore rien prouvé dans la vie. Ils ont envie de paraître. Quand ils voient quelqu'un, ils ont l'impression que la personne n'a rien à faire. Ils sont contents de commencer à faire des débats avec lui pour essayer de voir qui est le plus fort dans le débat. Ces gens-là ne sont pas prêts au salut. Ne perdez pas votre temps. Secouez la poussière de vos pieds. Priez pour eux si vous voulez et partez. Vous sentez quand quelqu'un pose des questions juste pour faire débat. Mais il y a d'autres personnes, vous sentez qu'ils posent des questions parfois difficiles, mais ce n'est pas des questions pour faire débat. Ils se posent sincèrement ces questions. Tu sens que c'est quelqu'un qui se dit, ça a l'air vrai. Mais si c'est vrai, pourquoi ça? C'est vrai, hein, c'est vrai. Non, 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 mais si c'était si vrai, pourquoi vous aussi vous faites ça? Quand tu sens que les questions de la personne sont une déduction logique de ce que tu as dit en termes de oui, mais, il faut prendre la peine de lui expliquer, de l'édifier, de le conseiller, de le fortifier. Ça veut dire qu'il est sur le chemin du salut, mais Satan le retient. Satan le persuade qu'il se trompe. Et il te demande de l'aide. Il te dit, Satan vient de me dire que c'est vrai, mais que vous n'aimez pas ma mari. Est-ce que c'est vrai? Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais si c'est ça, pourquoi vous aussi vous faites comme les prêtres? C'est des réponses, c'est des questions de quelqu'un qui dit, je veux. Ça veut dire, en sous-entendu, je veux bien. Mais, si c'est des je veux bien, mais, il est important de prendre le temps sur place ou plus tard, parce qu'on n'est pas obligé toujours de boucler tout à la fois. On peut prendre du recul pour mieux venir. C'est une question importante. Ce que tu vas faire, donne-moi toutes les questions que tu te poses. On se donne rendez-vous demain, on va en parler. On se donne rendez-vous après demain, on va en parler. Ça te permet d'être ressourcé. Ça te permet d'aller prier. Ça te permet aussi d'éviter que le débat s'enflamme. Parce qu'à certains moments, le débat devient passionné. On ne parle pas du Seigneur à quelqu'un pour gagner le débat. Le but d'une discussion avec quelqu'un sur le Seigneur, ce n'est pas de prouver qu'on a gagné, c'est de gagner son âme. Si tu sens que le débat est en train de tourner à une formule qui tend plus à exposer votre ego respectif, plutôt qu'à valoriser le Seigneur, éteins-le d'abord. Tout ce que tu dis est vrai, nous allons y revenir. Prenez le recul avant de revenir sur le débat si vous sentez que le débat n'est pas parti pour être assez calme. Parce que si quelqu'un est énervé, passionné, il ne peut pas percevoir la vérité. Dans son propre intérêt, il faut peut-être arrêter, laisser ce que tu as déjà dit mijoter en lui, aller te ressourcer toi-même et revenir à la charge. Maintenant, la question de savoir s'il faut accepter d'aller, une fois qu'on a fait ce discernement-là, pour savoir s'il faut laisser tomber ou s'il faut faire le débat, est-ce qu'il faut aller directement sur les points qui font divergence? Il y a plusieurs approches. Mon avis à moi, c'est que j'ai beaucoup aimé quand je faisais mathématiques à l'école, l'histoire du plus petit dénominateur commun. J'estime que quand des choses ont des dénominateurs communs, la sagesse veut qu'on fasse d'abord le zoom sur les dénominateurs communs pour s'entendre avant d'aller ensemble sur les choses qui nous opposent. Dans tous les cas, même en deux jumeaux, en deux frères, en deux sœurs, en deux couples, en deux conjoints, il y a toujours des choses qui nous opposent. Si on doit se demander si des choses nous opposent pour être ensemble, personne ne sera jamais ensemble. Nous sommes dans une même église, nous sommes dans la même foi, mais des choses nous opposent. On n'a pas le même don, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes appels. Donc, il n'a jamais été dit que nous devons avoir tout en commun pour marcher ensemble. Il faut juste que nous nous entendions sur l'essentiel. De ce point de vue, je ne pense pas qu'il soit sage de commencer l'évangélisation en attaquant de fond ce qui nous oppose aux gens. Il faut plutôt, sans dire que ce qui nous oppose n'est pas important, dire « ça c'est des détails, nous allons y revenir ». Mais faisons d'abord le tour de l'essentiel. Et dans cet essentiel, essayez de mettre prioritairement ce sur quoi il n'y a pas de polémique. Quand vous prenez un musulman, nous avons, on va voir ça demain, nous avons en commun certaines choses. Un musulman est convaincu comme un chrétien, comme un catholique, que Dieu est unique. Ce qui n'est pas le cas d'un idolâtre. Et à la limite, le musulman sait encore plus que Dieu est unique qu'un catholique. Donc, il faut partir de ce qu'on a en commun. Il ne faut pas toujours attaquer. Quand tu prends par exemple un catholique et tu veux lui parler du Seigneur, ce n'est pas la peine de commencer à parler de Marie, de chapelet, de quoi. Ça, c'est les détails qui nous opposent. Mais ce qu'on a en commun, c'est Dieu est Dieu, Jésus est Jésus, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. L'essentiel, on l'a en commun. Même si on le pratique différemment, on l'a en commun. Rappelez aux gens ce qu'on a en commun, fais l'essentiel. Et en général, moi, pour la petite expérience que j'en ai eue, quand tu convaincs les gens sur l'essentiel, ce qu'ils ne connaissent même pas bien, mais qui est le leur, c'est eux-mêmes qui te disent, c'est tellement vrai, il semble que tu as même plus d'autorité que mes leaders religieux dans mon église pour me dire ce qu'il y a dans mon église. Cela étant, qu'est-ce que tu penses de telle chose? À ce moment, il n'en fait plus un débat. Il te pose la question en s'attendant presque déjà à ce que tu dises la vérité. Si tu lui dis à ce moment la vérité avec amour, dans la plupart des cas que j'ai vus, à 80%, le gars, même s'il ne le fait pas immédiatement, il encaisse. Il ne va peut-être pas capituler immédiatement, mais ça commence à trotter dans sa tête. Quand il ira à l'église la prochaine fois, même s'il ne dit rien, il observe tout en repensant à ce que tu lui as dit. Et il verra dans la réalité ce que tu lui as dit. Il va poser subtilement des questions à son prêtre. La réponse du prêtre, il ne sait pas pourquoi il a posé la question, va lui confirmer ce que tu as dit. Quand tu as par exemple dit, Noël, c'est la fête d'un dieu païen, c'est la fête du dieu soleil. Il ne va rien dire. Il va dire, mon père, Noël, là, ça vient d'où? Comme ils font là, oui, Noël, c'était... Il va lui dire la même chose. Il va se dire, ah, le type-là ne mentait pas. D'accord. Et le Saint-Esprit travaille en son cœur petit à petit. Il va venir sans te poser des questions. Donc, réponds-lui avec amour, donne-lui de la matière qu'il peut vérifier. Il parle de Marie. Va sur Internet. Rentre Marie, déesse Semiramis. Fais ta recherche. Ou rentre dans l'église. Moi, j'ai été sur Internet. Histoire de l'église catholique. C'est public. Quand tu lis toi-même, on dirait qu'à l'église catholique, on ne... même moi, j'étais catholique pendant longtemps, je n'ai jamais lu. On est catholique, on ne se demande pas ça veut dire quoi. On ne se demande pas comment l'église est devenue romaine. Au lieu d'être juive, on ne se la demande pas. Mais c'est public, c'est sur Internet, tout le monde sait. Tous ceux qui veulent savoir savent. En fait, on n'a pas besoin d'inventer quelque chose pour ouvrir les yeux catholiques. Si vous dites, même quand tu prends les livres d'histoire de l'église catholique, la vérité y est écrite. Mais qui la lit? Le missel est une sélection soignée de textes pris hors de leur contexte pour que le fidèle catholique ne lise jamais toute la parole de Dieu. Prends l'évangile de dimanche. Invite le fidèle catholique à lire ce qu'il y avait avant dans la Bible et ce qu'il y avait après dans la Bible. Pourquoi que ce n'est pas hasard qu'on a extrait ça? Et tous les quatre ans, il entend la même chose comme il avait pleuré d'autres entendre dans la parole de Dieu. Pourquoi la Bible n'est pas finie? Et on limite ceux qui entendent en quelque chose qui finit au bout de quatre ans, il faut recommencer. Il faut poser cette question aux gens. Moi, j'ai découvert que pour persuader les gens, ça vient un peu de la maïeutique en philosophie, les questions sont plus efficaces que les réponses. Tu dis que tel est vrai. Pourquoi c'est vrai? Convainc-moi. Va chercher l'information. Va dans ton église. Amène-moi l'information pour savoir, puisque la Bible n'en parle pas, pourquoi vous adorez Marie? Va chercher toi-même l'information, viens. Va sur Internet, fouille. Va dans les bibliothèques, fouille. Et reviens. Si ça se trouve, il en découvrira plus que vous-même sur les faits. Et il saura mieux que vous que ce n'est pas bon. Mais regardez bien, les religions ont une spécialité. Ils empêchent les gens de réfléchir. Ils mettent le cerveau des gens sur off en leur disant que ce n'est pas bien par rapport à Dieu de réfléchir. Moi, on m'a fait du catéchisme en disant on ne pose pas des questions sur Dieu. C'est comme ça, point final. J'ai déjà vu des gens qui m'écrivent sur Internet que c'est un blasphème que de réfléchir à Dieu. Or, la Bible dit méditez ma parole, analysez-la, éprouvez-la. Le livre des Proverbes parle de la sagesse, parle de l'intelligence. Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, si j'ai oublié quelque chose que j'ai promis, comme le rappelle, on dit qu'on n'a pas le droit de réfléchir à Dieu. Quand tu vas prendre quelqu'un comme ça, tu vas dire, pourquoi tu discutes, on ne dit pas à Dieu, tu l'ouvres la Bible, là, on a dit, discuter sur Dieu. Il dit, ah. Plus tranquillement et humblement, tu lui montres, là où ce qu'il croit certain est faux, dans la Bible, tombe. Quand tu prends un musulman, tu dis, ah bon? Non, Jésus, c'est rien. Viens, donne-moi ton Coran. Il ne faut pas prendre compte, donne-moi ton Coran. Ouvre-la, lis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon, ouvre-la, lis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ça veut dire que pour y arriver, vous devez connaître aussi ce qu'il y a dans la religion des autres. Savoir ce que quelqu'un d'une religion a reçu comme programmation. Qu'est-ce qu'on lui a appris? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Quand vous prenez un musulman, il est programmé pour qu'on ne n'ouvre même pas le débat sur sa foi. Il est programmé pour que la première chose que le musulman va faire, par exemple, c'est de voir si vous voulez vous moquer de Mahomet. Si vous commencez à moquer de Mahomet, il n'est pas à vous tuer immédiatement. Donc, si tu veux évangéliser un musulman, erreur à ne jamais faire, ne dis jamais que Mahomet est un menteur, que c'est un faux prophète. Admettons que le prophète ait raison. Prenons justement son livre. Allons voir dans son livre. Vous ne pouvez pas évangéliser quelqu'un en le braquant immédiatement, en balayant du revers la main tous ceux auxquels il croit. Parce que ce n'est pas sa faute d'y croire. On a pris 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans parfois à lui faire bûcher quelque chose. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain lui dire que tout ça est faux. Tu dois faire preuve de sagesse pour l'amener progressivement en commençant par les choses qui peuvent lui être le plus facilement accessibles afin de lui faire découvrir que dans le fond, on l'a escroqué intellectuellement. Et progressivement, c'est-à-dire, il faut toucher le cœur des gens au rythme où ils s'ouvrent. N'essayez pas de violer le cœur des gens. Vous savez ce que je veux dire? Vous touchez le cœur de quelqu'un. Vous devez sentir à quel point il s'ouvre, à quel point il a faim. Plus il a faim, plus il s'ouvre, plus vous avancez. Plus il est encore fermé, plus vous devez être patient. Si vous forcez, vous allez créer des déchirures et des conflits. Vous devez gagner les cœurs au rythme où le Saint-Esprit les convainc. On va y revenir demain, en détail. On va revenir demain aussi, on va essayer de faire un peu de marketing. Pas que la foi soit technique, mais la science nous a été donnée par Dieu. La Bible nous dit que Dieu a fondé le monde avec la sagesse, il a bâti avec l'intelligence. La sagesse que Dieu nous a donnée ne vient pas de rien. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que les principes du marketing ont à nous apprendre en termes de salut des âmes. Quand on parle par exemple de produits, c'est quoi? C'est tu proposes aux gens d'acheter quelque chose. Donner sa vie à Jésus, c'est se vendre à Jésus. Mais qu'est-ce que tu leur proposes? Se vendre à Jésus là, c'est quoi? Il y a quoi dedans? C'est l'une des erreurs que nous faisons, nous demandons aux gens, viens à Jésus. Mais quand ils viennent à Jésus, si tu leur demandes tu es parti à Jésus, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. On ne peut pas demander à quelqu'un d'acheter quelque chose sans lui dire clairement ce que c'est, sans lui montrer clairement ce que c'est, sans lui dire clairement qu'est-ce qu'il y a dedans. On est d'accord. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce qu'on nous offre aux gens quand nous leur proposons le salut. Nous allons voir le prix. Si tu dis à quelqu'un que donner sa vie à Jésus, ça veut dire qu'il doit avoir rasé tous ses cheveux, si elle est une belle femme, elle doit s'enlever toutes ses boucles d'oreilles, acheter un foulard noir perforé qu'elle va mettre sur sa tête, si elle n'en a pas, elle doit en prendre un achouta devant l'église. Tu as déjà vu des églises comme ça? Les femmes, quand elles avaient, elles sont belles. Et puis, il y a des tas de friperies devant l'église avec des foulards. Elles devaient acheter des foulards pourris, s'attacher la tête avant de rentrer dans l'église. J'ai déjà vu ça de mes yeux. C'est un prix trop cher à payer. Tu vois un rastaman. Le Saint-Esprit vient toucher son cœur. Vous secouez la tête si je mens, comme le disent. J'ai menti? Hein? Lui me demande si c'est au Bénin ici, Hermione. C'est au Nigeria. C'est bien au Bénin ici. Il y avait plein de vendeuses de friperies avec des tas de mouchoirs et de foulards pourris. Des grandes dames arrivaient et tout le monde doit être hypocrite. Elles achètent des foulards pourris à 200 francs et puis elles enlèvent leurs beaux bijoux, elles s'attachent la tête. Elles rentrent dans l'église, tout le monde a la tête attachée. Quand on finit le culte, elles sortent de l'église, elles ont leurs foulards puis elles se rhabillent, elles sont belles. Et c'est officiellement, vous dites, ah, on a transformé l'église en marché de friperie. Ça, je vous ai dit, repère de brigands. Au Bénin, ici, une grande église en plus. C'est ça le prix. Des jeunes qui sont sur le point de se marier. Le Saint-Esprit les touche. Ils se répandent de vivre dans la fornication. Ils veulent se mettre en règle. Ils avaient à l'église, on les met devant tout le monde, on se moque d'eux. On les insulte. On dit qu'ils sont des païens. On les met en quarantaine. L'homme dit franchement, ma soeur, ou mon épouse, si c'est ça ton église, là, pardon, moi je tourne dans le monde d'abord. Le prix à payer pour suivre ton Jésus est trop. C'est comme ça, non? Quand même, un gars est rastaman. Le jour où on lui a fait Jésus, il dit, si tu ne coupes pas tes cheveux, tu ne rentres pas ici. C'est le diable qui a tes cheveux. N'importe quoi. Bon, non, si le prix à payer pour suivre Jésus est trop élevé, le produit va plaire comme ça aux gens, ils vont dire, le temps d'être parfait pour payer leur prix là, laissez-moi dans le monde d'abord. C'est pas bon. À la place, on a commencé à parler des opportunités. À quel moment? Qui est candidat au salut? On a commencé à voir les gens qui sont accablés et qu'on sort. Et comment on peut faire un peu, comme on est en train de le dire, la promotion de la parole de Dieu pour sauver les gens. On va voir tout ça. On va voir les opportunités pour gagner des âmes. On va voir les résultats auxquels on doit viser. Il ne faut pas tout se dire, si je parle de Jésus à quelqu'un, si j'ai réussi, c'est qui doit me dire, bon, je me mets à genoux, je te confesse Seigneur Jésus. Non. Tout le monde ne vient pas au Seigneur de la même manière. Ne vous dites pas quand vous voyez quelqu'un, vous devez le prendre par le col jusqu'à ce qu'il dise, je confesse que Jésus est Seigneur. S'il n'a pas dit, je confesse que Jésus est Seigneur, vous ne bougez pas. Non. Ou bien... On est programmé comme ça, non? On dit, si je ne veux pas Jésus, je dois le prendre par le corps jusqu'à dire, mon frère, dis que Jésus est Seigneur. Dis pas Jésus est Seigneur, je ne te lâche pas. Non. On dit si tu crois de ton cœur, que tu confesses de ta bouche. Ça ne veut pas dire si tu fais la prière de donner sa vie à Jésus. Quand un musulman dit, ma fille, c'est toi qui as raison, hein, faut prier pour ton Jésus pour moi. Elle vient de croire de son cœur si elle ne peut pas dire de prier pour elle. Elle vient de confesser sa bouche de Jésus, si elle ne peut pas dire de prier ton Jésus pour elle. Ou bien, si tu parles de Dieu tout le temps à une musulmane, elle a un problème, elle t'appelle pour dire, ma fille, c'est toi qui as raison, et ton Dieu, là, ce qui fait ta vie, c'est lui qui est le vrai Dieu. Hein. Pardon, prie ton Jésus pour moi. Ça veut dire qu'elle croit à son cœur, non? Elle a dit de sa bouche, non? Ou bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas que Joël confesse, mais Dieu a ce qu'il veut déjà. Maintenant, tu dois l'enseigner. Tu dois lui apporter la parole pour qu'à l'heure de Dieu, le break se fasse. Mais nous considérons que rien n'est fait. Ça que les gens ne sont pas venus à l'église se dire, je donne ma vie, Seigneur, merci. Bon, on va revenir sur tout ça demain. On va faire la prière de clôture. D'accord? On va faire la prière de clôture. On peut se lever maintenant pour la prière.
Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te remercier pour ta présence qui a été effective, éternel Dieu, parce que tu as fait encore des merveilles ce soir. Tu nous as témoigné encore ton amour, ta grâce et ta bonté. Nous voulons, éternel Dieu, que tu bénisses, éternel Dieu, tous ceux qui sont arrivés ici ce soir.
Amen.
Et que, éternel Dieu, la présence, éternel Dieu, de chacun, éternel Dieu, soit vraiment bénéfique et touche, éternel Dieu, toute la famille, éternel Dieu, la Amen. Famille de Global. Papa, nous voulons te recommander le retour, éternel Dieu, à tes mains. Le retour, éternel Dieu, de chacun de nous. Conduis-nous, éternel Dieu, dans nos maisons respectives. Éternel Dieu, accorde-nous, éternel Dieu, de bon sommeil. Afin que, éternel Dieu, demain, nous puissions, éternel Dieu, nous réveiller encore en bonne santé. Et être prêt, éternel Dieu, pour le combat pour lequel tu nous as choisi. Parce que c'est toi qui nous as aimé le premier. Père, merci parce que tu es Dieu. Tu nous as exaucé. C'est au nom de Dieu que nous avons prié.
Amen. Amen. Rentrez bien. Soyez bénis.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution